إن الحمد لله نحمده ونستعينه شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها حياكم الله تعالى. Donc nous sommes aujourd'hui, inshallah ta'ala, ce soir nous sommes samedi 3 Rabi al-Awwal 1435 de l'Hégire, correspondant au 4 janvier 2014, avec inshallah ta'ala le 26e cours. Le livre de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, le dogme du monothéisme. Le titre d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est la sorcellerie, la divination et la voyance. La sorcellerie, la divination et la voyance. Toutes, Cheikh Rahimah, Cheikh Havilor dit, toutes ces pratiques, les trois, sont des œuvres sataniques, interdites, qui portent atteinte à la foi ou la contredisent. Car les moyens par lesquels elles ont lieu impliquent l'association à Allah Azza wa Jalla. Je répète, toutes ces pratiques, la sorcellerie, la divination et la voyance, sont des œuvres sataniques qui viennent de Satan, interdites, et elles portent atteinte à la foi, ou bien la contredisent. C'est grave. Car les moyens par lesquels elles ont lieu, ces trois choses, impliquent l'association à Allah Azza wa Jal. Awalan, la sorcellerie. Awalan, la sorcellerie. Qu'on appelle en arabe, sihr. En arabe, sihr, désigne ce qui est caché et dont la cause est secrète. En arabe, le mot sihr désigne ce qui est caché et dont la cause est secrète. Elle est appelée ainsi du fait qu'elle se réalise par des moyens secrets, imperceptibles à la vue. Elle consiste en des chants, des incantations, des paroles, des drogues et des fumigations. C'est une chose bien réelle. Certaines de ces pratiques peuvent porter atteinte au cœur et au corps. Après quoi, elles peuvent provoquer la maladie, la mort, ou séparer un couple. Mais bien sûr, leur influence est conditionnée par la permission universelle d'Allah Azza wa Jal. Je répète, quant au sihr, la sorcellerie, c'est bien réel. Pourquoi ça n'a pas lieu, peut-être seulement, j'ai pas bien vu quelque chose. Certaines de ces pratiques peuvent porter atteinte au cœur et au corps. Après quoi, elles peuvent provoquer la maladie, la mort ou séparer un couple. Mais leur influence est conditionnée par la permission universelle d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit en fait d'un acte satanique qui, dans la majorité des cas, ne peut aboutir sans commettre l'association et se rapprocher des mauvais esprits en commettant l'association. C'est la raison pour laquelle le législateur a joint la sorcellerie à l'association. D'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, il a dit, « Ijtanibu sab' al-mubit, ijtanibu » c'est-à-dire, il a dit, éviter les sept grands péchés. éviter les sept grands péchés. Alors les compagnons lui demandèrent, quels sont-ils? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, Ash-shirku billah. Ou ça, c'était les sept. Il a commencé par l'association à Allah Azzawajal. Ensuite, il l'a secondé par la sorcellerie. Il a cité deux. Il y en a cinq autres. Donc, les sept grands, dans les sept grands péchés, il y a quoi? Il y a la sorcellerie. Et vous voyez comment? Elle vient juste après l'association à Allah. Et le prophète sallam l'a cité après l'association pour dire qu'il y a une relation entre les deux. Non. Quand tu fais la sorcellerie, tu as associé Allah subhanahu azzawajal. Non. Bien sûr, le hadith est rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc, la sorcellerie fait partie de l'association à Allah azzawajal sous deux points de vue. Il y a deux points de vue qui yani, montrent cela. Non. Le premier, car elle fait appel à l'intervention des démons et implique que le sorcier se rattache à eux et se rapproche d'eux en faisant ce qu'il aime. Le premier point là, qui montre que la sorcellerie fait partie de l'association, le premier point, car elle fait appel à l'intervention des démons et implique que le sorcier se rattache à eux et se rapproche d'eux en faisant ce qu'ils aiment. Pourquoi il fait ce que aiment les démons? Pour qu'ils accomplissent ce qu'ils désirent lui. Vous avez compris? C'est donnant, donnant. Tu veux travailler avec le djinn? Le djinn ne te donne jamais quelque chose, fils Abidla. Il te dit donnant, donnant. Qu'est-ce que tu veux que je te vole de l'or, je te ramène de l'or? Tu veux que j'aille yani, prendre, tu me donnes un sihr? Je vais le prendre et le mettre dans le manger de telle personne. Ou alors le jeter dans sa bouche quand elle dort la nuit. Ou ceci, cela, ou mettre un cirque dans leur porte. Non, mais à condition, tu me donnes toi aussi ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Il faut associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Donc tu dois égorger quelque chose pour moi. Ou alors tu dois m'invoquer. Ou alors tu dois me faire une prosternation. Ou alors. Non, jamais. Fisabilah. Al-Muhim. Donc. Il a dit, se rattache à eux et se rapproche d'eux en faisant ce qu'ils aiment, les djinns. Pourquoi? Pour qu'ils accomplissent ce qu'ils désirent. Pour qu'ils accomplissent ce que le sorcier désire. Ils vont lui dire, nous, n'oublie pas qu'on te travaille. On te donne la réputation. Regarde combien de gens viennent par jour chez toi. Nam, si tu ne pouvais pas yani, leur prouver des choses, que yani, tu peux faire le cirque, tu peux séparer entre deux, entre un couple, là, tu peux ceci, cela. Personne ne serait venu vers toi. Regarde comment maintenant tu es réputé, on vient yani, de telle et telle ville pour toi. Donc c'est nous qui t'aidons. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Walakin shayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. 202. 202. Il a dit, alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ce sont les diables qui ont été mécréants. Pourquoi? Ils enseignent aux gens la magie. Ils enseignent aux gens la magie. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, on va voir le deuxième point. Le deuxième point, car la sorcellerie implique la prétention de connaître l'invisible et d'être associé à Allah. Non, car la sorcellerie a la prétention de connaître l'invisible et d'être associé à Allah Azzawajal dans ce domaine. Ce qui est mécréance et égarement. Et c'est ça, le pur égarement et la pure mécréance. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقًا. Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102. Et ils savent, et certainement, que celui qui acquiert ce pouvoir, sihra, la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. N'aura aucune part dans l'au-delà. Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune part dans la récompense de l'au-delà. Et si jamais quelqu'un, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le prophète, en parlant d'une chose, ou en parlant d'une personne, dit que cette personne, n'aura aucune part dans l'au-delà, ou bien celui qui fait telle et telle chose n'aura aucune part dans l'au-delà, ça veut dire qu'il a fait de la mécréance. Car celui qui n'a aucune part, c'est seulement le kafir. Le musulman a toujours sa part dans le paradis. Il faut bien comprendre ça. Seul le kafir n'a aucune part dans l'au-delà. Kafir, sa part, c'est dans cette dunya, il a tout. Comme dans le hadith, c'est son sijn, c'est la prison qui l'attend là-bas. Jahannam, a'oudou billah. Tandis que le croyant, le musulman, même si, quand il meurt, peut-être qu'il ira en enfer à cause de beaucoup de mauvaises choses qu'il a faites dans sa dunya, Allah ta'ala ne lui a pas pardonné, s'il ne lui pardonne pas, mais il a toujours sa part dans l'au-delà, car il finira un jour par se trouver dans le paradis. Il finira par se trouver dans le paradis. C'est une promesse d'Allah Azzawajal pour tout croyant qui est mort croyant. Al-Muhim, le Cheikh dit, Cheikh Fawzan, Allah dit, par conséquent, lorsqu'il a dit, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune part dans les récompenses de l'au-delà, il a dit par conséquent, la sorcellerie est sans aucun doute de la mécréance et de l'association Allah Azzawajal qui vont à l'encontre de la foi authentique. Celui qui la pratique, la sorcellerie, doit être mis à mort, comme l'ont fait un groupe parmi les plus grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, écoutez ce qu'il dit, c'est Hafidhahullah, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah ta'ala. Mais nous constatons de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Que les gens tolèrent le sorcier et la sorcellerie, au point qu'ils la considèrent, la sorcellerie, qu'ils la considèrent comme un art dont ils tirent de la fierté en attribuant des prix à ceux qui la pratiquent et en les encourageant. Ainsi, assemblées, fêtes et concours sont organisés pour les sorciers et des milliers de spectateurs et supporters y assistent. C'est dû à l'ignorance de la religion, à la négligence du dogme, ainsi qu'à l'opportunité accordée à ceux qui portent atteinte à celui-ci. Naam, la sorcellerie, qui est quoi? Qui est de la pure association à Allah Azzawajal, est devenue un art. Un art. On organise des concours, des fêtes, des assemblées. Naam, on invite des gens et il y a des milliers de spectateurs qui viennent. Et il y a, je ne sais pas moi, chaque année ou là, tous les 5 ans, mais je sais ce que je dis. Il y a un concours mondial de la sorcellerie où tous les grands sorciers se rencontrent. Tous les grands sorciers se rencontrent et chacun va passer en représentant son pays. Par exemple, à France, Algérie. Et à chaque fois, il y a un sorcier qui sort comme ça des coulisses, qui se présente et il fait quelque chose. Et ensuite, il y a un jury, 4 ou 5 personnes. Je crois, c'est sûr que ce sont aussi des sorciers. Pour être dans le jury, il faut être un grand sorcier. Un Mohem, et il donne par exemple un prix, un grand prix à X ou Y ou Z. Subhanallah, l'adim, c'est devenu un art. Alors que ceux-là viennent associer Allah subhanahu wa ta'ala, viennent faire le shirk, le kofre. Et on les invite, on leur fait ceci, et les gens payent, je ne sais pas combien d'euros, pour avoir une place et assister. Et, subhanallah, l'adim, agrient ce qu'ils font. Et applaudissent des mains. Et sont contents si tel ou tel sorcier a été le vainqueur. Tout ça, pourquoi? Comme a dit Cheikh, c'est dû à l'ignorance de la religion et à la négligence de la aqida. La négligence de la aqida. Quand quelqu'un ne connaît bien sa religion. Ou alors, ne donne pas d'importance à la aqida, comme les musulmans, comme les tablighs, comme. C'est possible que ceux-là aillent assister. C'est possible qu'ils aillent assister à un sorcier. Il dit, qu'est-ce que ça contredit ça? Non, ça n'a rien à voir avec le din. C'est quelqu'un que Allah Ta'ala lui a donné le pouvoir de faire telle et telle chose. El Mouhim. Tout ça, c'est quoi? C'est la sorcellerie qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve. J'aimerais ici dire une chose importante que Cheikh Ibn a dit, rahimahullah. Et ça m'a plu, cette chose qu'il a dite. Il a dit, la sorcellerie se divise en deux, en fait. Sorcellerie. Yani, qui rend la personne mécréante et qui implique que celui qui l'a fait doit être mise à mort. Et deuxième sorte de sorcellerie qui ne rend pas la personne mécréante, mais qui implique, ça lui donne de grands péchés, et que, yani, ça implique pas de mettre à mort la personne. Mais bien sûr, on peut la mettre à mort si maintenant on a peur que ça se propage, etc. Il a dit la première, qui est de la mécréance. Et qui, ça implique de mettre à mort celui qui l'a fait, il a dit, le sorcier qui travaille avec les démons. C'est ce que cite ici Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Sauf que Cheikh Fawzan Hafidhahullah n'a pas fait cette division entre les deux sorcelleries, les deux sortes. Et Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah, et la deuxième sorte, c'est, ça donne seulement des grands péchés, celui qui fait la sorcellerie sans avoir une relation avec les démons. Mais comme j'ai dit une fois, il mélange des choses. Il mélange par exemple la queue de la souris avec par exemple la tête de la grenouille, par exemple, et quelques herbes, je ne sais pas quoi. Et il mélange le tout et il lit comme ça des choses. Naam, il a dit, tant qu'il travaille, naam, il a dit, il n'est pas devenu kafir. Il n'a pas dit il lit quelque chose. Hein. Moi, je l'ai ajouté. Al-Muhim, maintenant, on va voir autre Allah Ta'ala qui est importante, yani, qui s'appelle bi'idhnillahi Ta'ala, la divine al-Kihana. Ça s'appelle aussi le Kahana. Croyance, l'Irafa. C'est quoi ça? Il s'agit de prétendre la connaissance de l'invisible et choses imperceptibles telles que les événements futurs qui auront lieu sur cette terre et l'endroit où se trouve un objet égaré. Je répète. Attendez, si j'ai écrit ça, je ne l'ai pas écrit. Non, je ne l'ai pas écrit. Taïb. Donc, c'est quoi de la divination? Il a dit, il s'agit de prétendre la connaissance de l'invisible. C'est le Kihana. Et des choses imperceptibles, telles que les événements futurs, qui auront lieu sur Terre, ce qui va arriver, hein, leur dame soleil, ce qu'elle disait. Et l'endroit où se trouve un objet égaré. Hein, la voyance, où se trouve un objet égaré. Tout ceci en demandant l'intervention des démons qui écoutent subrepticement la conversation des anges dans le... Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit... هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 26-221 c'est-à-dire Shu'ara 221. Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Vous voulez que je vous apprenne sur qui les diables descendent? تنزل على كل أفاك أثيم. La suite, l'aïa. Ils descendent, c'est-à-dire les... Qui? C'est les... Non. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Naam. Sur tout calomniateur, pécheur. Qu'est-ce qu'ils font? Il a dit. Yulquna sama wa aktaruhum kadibun. Il a dit. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'eux sont des menteurs, sont menteurs. Il dit. Ils tendent l'oreille. Naam. Pour écouter ce qui se passe dans le ciel. Ce qui se passe dans le ciel. Al-Muhim, regardez avec moi un peu plus haut, lorsqu'il a dit 222, regardez avec moi, Shu'ara 222, ou bien avance là, lorsqu'il a dit un peu plus haut, est-ce que vous voulez que je vous apprenne sur qui les diables descendent? Il a dit, ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ça m'a rappelé une chose, la fois passée, vous m'aviez posé une question sur ce qu'on appelle faire la ruqya par captage. Et je n'avais pas répondu à cela. Parce que quelqu'un, vous avez cité un nom, vous avez dit que il avait dit que son djinn est allé combattre, ou l'a combattu à Ghazwat Badr, et vous avez posé la question sur captage, j'ai entendu. Non, je dis d'abord, je reviens un peu marche arrière. Puisqu'il a été combattre à Badr, pourquoi il n'est pas allé combattre? Pourquoi il n'est pas allé combattre les Russes et les Américains en Afghanistan? Pourquoi il n'est pas allé combattre et ne va pas combattre les Yéhoud? Il ne combat pas en Palestine. Hein? Je dis à ce frère-là, hein? C'est pas interdit que tu aies un djinn, que tu commandes. Tu peux l'envoyer n'importe où. Il a participé à Badr et tu l'envoies chez les Yahoud. Hein? Pourquoi tu l'envoies pas en Syrie? En Syrie. Cheikh Rabi Hafdallah dit, le gouverneur de Syrie est kafir, comme ça il a dit. Hakim ou Souria kafir. Naam. Cheikh Obeid el-Jabiri, en parlant du gouverneur de la Syrie, il a dit, Mel'oun, ibn Mel'oun, kafir, ou Mel'oun, ibn Mel'oun, ou kafir. Il a dit, kafir, fils de kafir, fils de kafir, maudit, fils de maudit, fils de maudit. Pourquoi il l'envoie pas là-bas? Qui tue des milliers de gens, des centaines de gens par jour. Des innocents et des femmes et des bébés en lâchant des bombes par les avions. Pourquoi il n'envoie pas son djinn là-bas? El Mouhim. Captage. Captage, je savais pas. On m'a dit que. C'est-à-dire, je sais c'est quoi captage, mais je savais pas que c'était ça le mot en français. Ce qu'on fait par captage, je le sais. C'est quelqu'un qui fait la ruqya. Il fait venir une autre personne et il demande au djinn de rentrer dans la deuxième personne. Vous avez compris? Et ensuite, le djinn va parler de la deuxième personne et il va dire à la première personne qui est venue faire ruqya. Il va lui dire, voilà, tel djinn, tu es malade de telle et telle chose. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, lis avec nous le verset. Lis avec nous le verset. Le verset qui dit, regardez. Vous voulez que je vous apprenne sur qui descendent les diables? Vous voulez que je vous apprenne? Alors attendez une seconde, je vais vous apprendre. Ils descendent sur qui? Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Pour qu'un djinn descende et rentre dans une personne, il faut que cette personne soit un pécheur, un grand pécheur, un calomniateur, quelqu'un qui fait des grands péchés. هل أنبئكم على من تنزل؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أثيم. Il faut qu'il soit أفاك. Un grand menteur. Et أثيم. نعم. Un grand pécheur. Donc, on ne nous trompe, nous. Il va nous dire que, moi, Allah Ta'ala m'a donné un pouvoir. Ça veut dire que c'est quelque chose de bien si le djinn descend en moi. Hein, certains disent comme ça, il te dit, moi, c'est quelque chose, moi, Allah Ta'ala m'a donné un pouvoir, les djinns rentrent en moi, et je peux, yani, alhamdoulilah, yani, soigner les gens. Mais pour qu'ils rentrent en toi et descendent sur toi, c'est que toi, tu es un calomniateur pécheur. Tu es quelqu'un qui fait les chiens. Guérir, tu puisses guérir toi. Qu'est-ce qu'on te dit? Va te guérir d'abord de l'ignorance. Va te soigner de l'ignorance que tu as dans la aqida. Ensuite, va soigner les gens. Va te soigner de grande ignorance. Dans la aqida, si tu meurs comme ça, on a beaucoup peur pour toi. Non, on a beaucoup peur que yani, tu rates et tu te prives du paradis. Non, ensuite, va soigner les gens. Non, tout ça pourquoi? Juste pour quelques euros. Pour quelques euros. Pour faire 10 ou 100 euros par jour. Tout ça. Non. El Mouhim. Subhanallah, ni'mal wakil. Cheikh Hafidhahullah dit, Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, en effet, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il capte un mot de la conversation des anges pour le rapporter aux voyants. Il capte un mot, il le donne à celui qui est plus bas, le donne à plus bas, et ensuite, jusqu'à ce qu'il arrive au. Donc, vous, nous entre nous, si on va mettre une file, quelqu'un, moi je me mets ici debout et je tends ma main à quelqu'un qui est devant moi, et l'autre tend sa main à l'autre, et l'autre tend sa main à l'autre, comme ça, 1 000 personnes. Et je vais dire au premier qui est devant moi, je vais lui dire, aujourd'hui à Blida, par exemple, hein, il fait 15 degrés. Le deuxième va m'entendre, et va dire au troisième, aujourd'hui à Blida, il fait 15 degrés. Ensuite, si on va demander à 1 000, à la 1000e personne qui est là-bas au fond, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il va te dire, on m'a dit aujourd'hui à Blida, qu'il y a eu 100 morts. Un hélicoptère est tombé, il y a eu 100 morts. Alors regardez, qu'est-ce qu'il a pu retenir? Seulement à Blida. Ensuite, tout a changé. Nous, on parle de la température, et lui, il a dit un hélicoptère est tombé, et il y a eu 100 morts. Un hélicoptère, déjà, quand il tombe, il n'y a pas 100 morts, il y a 6 ou 7 personnes qui sont mortes. Almohim, est-ce que vous avez des coupures? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdoulilah. Tayyib. Alhamdoulilah. Donc, je voulais dire que la même chose, les djinns, imaginez, un shaitan sur l'autre, un sur l'autre, un sur l'autre, pour qu'ils écoutent ce qui se passe dans le ciel. Maintenant, quand ils écoutent quelque chose des anges, celui qui est le plus haut va dire à celui qui est au-dessus de lui. L'autre va dire à celui qui est au-dessus de lui jusqu'à ce qu'arrive ce que ça arrive. Quand ça arrive déformé. C'est vrai et sans mensonge. Et sans mensonge. Al-Mu'im, il a dit, ensuite ce dernier ajoute parole mille mensonges. Alors les gens le croient à cause de cette seule vérité qui a été entendue du ciel. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Tandis qu'Allah Azzawajal est le seul à connaître l'invisible. Par conséquent, celui qui prétend s'associer à Allah Azzawajal dans ce domaine en pratiquant la divination ou autre, ou croit celui qui le prétend, donne à Allah Azzawajal des associés dans ce qui est propre à lui. En fait, la divination n'est guère exempte d'association, car c'est une pratique qui exige de s'approcher des démons parce qu'ils aiment. C'est une pratique qui exige de s'approcher, de se rapprocher des démons parce qu'ils aiment, en faisant ce qu'ils aiment. Elle est donc considérée comme association à Allah Azzawajal dans la Seigneurie, car c'est une revendication d'association dans sa connaissance. Elle est également une association à Allah Azzawajal dans la divinité, du fait qu'elle exige le rapprochement à autre qu'Allah Azzawajal par des actes d'adoration. Naam. Comme on a dit tout à l'heure, le djinn, pour qu'il te travaille, il te fasse ce que tu veux, il faut que tu fasses toi aussi des adorations. Donc, tu égorges et tu lui donnes des choses. Donc, en ce sens, ça devient quoi? Ça devient, yani, soit, ça devient, yani, on a fait quelque chose de mal, pas seulement dans la seule divinité. Naam. Donc, de la divinité. D'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit: Man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: quiconque ou les qui seront chez un devin et croit sa parole a certes mécru en ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a certes mécru en ce qui a été dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a révélé à Muhammad, c'est quoi? Le Coran. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Il y a un verset qui dit: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dit, قُلْ لَا, personne ne connaît. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, parmi ceux qui sont dans les cieux, dans la terre, Al-Ghaib, sauf Allah, sauf Allah. Donc celui qui croit le devin, ça veut dire qu'il a mécru en ce verset, il n'a pas cru en lui. Et ce hadith qui a dit celui chez un devin, là, et croit à sa parole, a certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad, ça c'est une partie du hadith rapporté par le ça se trouve dans Mishket Masabih de Sheikh Al-Albani, il a dit sahih 550. Ça c'est une partie du hadith. Si vous voulez le hadith en entier, il a dit comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il a dit. Man ata ha'idan ou imra'atan fi buriha inan faqad kafara bima ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque s'approche d'une femme, s'approche en faisant un rapport, s'approche d'une femme ou bien la ou se rend chez un devin et croit à sa parole, a certes mécru en ce qui a révélé, ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait un rapport avec sa femme quand elle a les menstrues. Naam. Quand elle a les menstrues, c'est interdit des rapports, vous savez. Mais quelqu'un dit non, je fais le rapport, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait quelque chose de vraiment, vraiment grave. Ou bien la sodomise. Au lieu d'un rapport, comment dire, un rapport vaginal, il fait un rapport anal, Allah, c'est-à-dire par derrière. Subhan. A mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. Il y a des sœurs qui sont, masha'Allah, na'am, qui leur mari veut les obliger à faire cela, jamais n'acceptent. Quitte à quoi? Quitte à divorcer. Na'am, quitte à divorcer et je n'accepte la sodomie ou bien je n'accepte pas cette chose dans les monstres. Na'am, tu veux divorcer, divorce. Rizq, c'est Allah Ta'ala qui le donne. Na'am, espèce de voyou. Espèce de voyou. Na'am. Na'am. Tu dis, qu'Allah, Allah, qu'Allah, le Rasoul, l'Ahyal, qu'Amis, Kada. Et maintenant, quand c'est qu'ils sont de Chehwa, c'est ta Chehwa. Il n'y a plus qu'Allah, qu'Allah, le Rasoul. Na'am. Al-Muhim. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand sa femme était dans. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un drap, un bel. Naam. Autrefois, vous savez, il n'y avait pas les vêtements internes, comme on dit maintenant, slip, culotte, ces choses-là, il n'y avait pas. Naam. Oui. Comme ça, pour être sûr de ne pas l'approcher en cet endroit, en même temps, pour ne pas voir des choses qui risqueraient de la sous-vêtements, voilà. Et en même temps, pour ne pas voir des choses qui risqueraient quoi, de la faire détester. De la faire détester. Il va voir comme ça le sang, avec une mauvaise odeur, etc. C'est peut-être qu'il ne savait pas ça, ou il n'a jamais vu ça. Il va détester la femme. Naam. El Mouhem. Qu'est-ce que je voulais dire en ce sens? Je voulais dire, naam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de s'approcher d'une femme menstruée. Et encore pire, la sodomie. Encore la sodomie. Ou la yadou billah. Et la personne yani, doit, inshallah ta'ala, supporter. C'est juste 5 ou 6 jours. Naam, et c'est en même temps une épreuve pour l'homme. Et ensuite, ce n'est pas interdit qu'il fasse ce qu'il veut, pas dans ces deux endroits, c'est tout. Dans ces deux endroits, c'est tout. Mais dans tout son corps, sauf dans ces deux endroits, billah ta'ala, sans dire, sans oublier que c'est permis qu'il yani, il fasse avec sa main à elle. Avec sa main à elle, au lieu yani, de faire le rapport dans les monstrues, car avec sa main, c'est permis, mais sa main à elle, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Cheikh Fawzan Hafidallah a dit, parmi les choses sur lesquelles il faut attirer l'attention et par rapport auxquelles il faut être vigilant, il y a le fait que les sorciers, les devins et les voyants cherchent à se jouer de la foi des gens en se faisant passer pour des médecins. Très important. Naam. En se faisant passer pour des médecins. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux malades d'immoler un animal pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils leur demandent d'égorger, à titre d'exemple, un mouton ou une poule. La description est précise. Surtout un coq, par exemple, noir. Je te dis noir, subhanallah. Comme les shayatins aiment la couleur noire, subhanallah. Ou bien, ils marquent des formules païennes et des incantations sataniques sous forme de talismans dans les maisons, des caisses ou dans les maisons. D'autres se présentent comme connaissant l'invisible, sachant où se trouvent les objets perdus. Les ignorants se présentent chez eux et leur demandent après certains objets perdus. Et ils leur disent où ils se trouvent ou leur rapportent l'objet lui-même par l'intermédiaire des démons. D'autres encore se font passer des saints aux miracles et prodiges, comme le fait d'entrer dans le feu sans être brûlé, ou se frapper avec une arme, ou se mettre sous les pneus d'une voiture sans cependant être atteint, ou d'autres pratiquants qui ne sont en réalité que la sorcellerie, œuvre satanique, c'est par leur intermédiaire pour éprouver les gens. De telles pratiques peuvent être aussi basées sur l'illusion, sans qu'elles soient réelles. Elles sont plutôt des ruses furtives exercées devant les gens, comme ce fut le cas des magiciens de Pharaon avec leurs cordes et leurs bâtons. Naam. Vous pouvez voir, yani, les sorciers, etc. Il y a certains, subhanallah al-adhim, je les ai vus comme ça une fois dans des photos. Non, des photos, vous savez ce qu'ils font? Et genre, pas des Hindous, ce sont des gens philippines comme ça qui ont les yeux un peu tirés, ce sont ni des Chinois ni des Japonais, c'est comme des Philippiniens comme ça. Je les ai vus une fois dans la photo. Nam, subhanallah, déjà à le voir la personne, à la voir une personne sale, sale, très sale. Et ensuite, toutes les personnes que j'ai vues avaient cette chose qu'on appelle le tatouage. Nam. Comme quoi, il y a le tampon du shaitan. Le tampon du shaitan. Cette personne, subhanallah, chacun d'eux rentrait quelque chose. Nam, par exemple, par gauche. Et la faisait sortir de la joue droite. Celui-là, il rentrait un couteau. L'autre, il rentre une épée. L'autre, j'ai vu, il a rentré comment ça s'appelle? Un fusil. Comme un fusil de chasse. Il le rentre de cette joue, il sort de l'autre joue. L'autre, il rentre du cou, il sort de l'autre côté. L'autre, il rentre de la poitrine, il sort du ventre. L'aladim. Et c'était comme un jour de fête, et tout le monde vient, et entre. Et il y a beaucoup ça chez les soufis, les musulmans. Ce dont je parlais, les Philippiens, ou quoi, ce sont des kofars. Mais il y a ça aussi chez les musulmans. Les musulmans, là, ils se rencontrent comme ça, les soufis, ils s'assoient, ensuite ils commencent à dire des incantations de shaitan, hein, à implorer de shaitan et à dire des phrases que je connais pas, mais on te les apprend. Et ensuite, tu commences à. Tout seul, à quoi? Tu commences à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Ça veut dire que le shaitan est arrivé, ça y est, il est en toi. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu commences à danser, hein? Il y a de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Et en ce moment, tu vas atteindre une certaine. Ou quoi? Ou le djinn khlas. C'est lui qui, maintenant, t'a bien possédé. Il est rentré dans tout ton corps. Et maintenant, on te donne un couteau. Et tu te frappes, par exemple, avec le ventre. Il n'y a ni coule, ni ça te fait mal. Naam. Et on commence à te faire rentrer des aiguilles de la joue, par exemple, gauche qui sort de la joue droite. Et comme ça, tu ne sens rien. Tu es dans l'extase. D'ailleurs, après, quand tu vas te réveiller, tu vas dire que tu ne savais pas ce qui se passait. Pourquoi? C'était le djinn qui t'avait possédé. C'est lui maintenant qui yani, t'aide pour que les choses. Yani rentre en lui, lui qui ne ressent rien, c'est de la fumée, et toi, t'as aucun mal. Quand les gens voient une personne faire ainsi, ils croient quoi? C'est quelqu'un qui a un miracle. C'est un bien-élu, c'est un élu d'Allah Ta'ala. C'est un wali, c'est un bien-aimé. Naam, c'est Allah Ta'ala qui lui a donné ce don, ce pouvoir. Alors que tout ça, c'est la chose la plus facile. Il suffit juste de faire des incantations, d'implorer le shaitan. Et il peut yani, faire de toi comme ça, si tu veux aussi. Il ramène un sabre ou une épée, rentre là, et rien ne va t'arriver. A'oudou billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous donne yani, la basira, la clairvoyance dans la religion. Clairvoyance dans la religion. Cheikh al-Imiya, qu'Allah ta'ala lui accorde sa miséricorde. Dit, il a dit dans Majmou' al-Fatawa. Imiya Majmou' al-Fatawa, tome 11. Page 446, 465. Vous savez que il n'y a pas une personne qui a réfuté les sectes égarées comme il y a Maoula Ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit au sujet d'un débat avec les magiciens de la secte Al-Bata'ihiyya. Naam. Et l'Ahmadiyya Rifa'iyya. L'Ahmadiyya, ça existe jusqu'à de nos jours. Les États-Unis ils sont partout, ils s'appellent Ahmadiyya. Comme quoi, yani, et ceux-là, la plupart d'eux disent qu'il y a un messager qui est venu après. Un messager qui est venu après. Donc, l'Ahmadiyya, que dit ici le cheikh? Ibn Taymiyyah a dit, le chef, haussa le ton en disant, hein, le chef de la bid'a a dit, devant Mtemia, et bien sûr, il y avait ce jour-là des milliers de gens qui sont venus assister à pas ce débat, à ce défi entre Ibn Taymiyyah et les soufis. Les soufis qui, Zama, yani, le feu ne les brûle pas et qui peuvent rentrer des épées comme ça sans que le sang ne coule, etc. Un mohem, la bid'a, on s'en le temps en disant, nous avons quelques privilèges comme tel et tel acte, et prétendit pouvoir réaliser des miracles tels qu'entrer dans le feu. Cela implique, d'après eux, c'est Timia qui dit, cela implique d'après eux qu'il ne doit plus être contre quoi que ce soit. Alors je dis, Timia dit, alors je dis, en me mettant en colère, je m'adresse aux Ahmadi de l'Orient et de l'Occident. Tout ce qu'ils font dans le feu, je le ferai de la même façon. Tout ce qu'ils font dans le feu, se jette dans le feu, je me jette moi aussi. Non. Tout ce qu'ils font dans le feu, je le ferai de la même façon. Et celui qui brûle est perdant. Je dis peut-être même qu'il soit maudit par Allah. Non. Venez, on va se jeter dans le feu. Et celui qui sera brûlé par le feu, qu'il soit maudit par Allah Ta'ala. Il a dit, mais cela, après nous être lavé du corps, attention, après nous être lavé le corps, on se lave le corps avec du vinaigre et de l'eau chaude. Alors les gouverneurs et les gens m'interrogèrent sur ce fait. Pourquoi tu as demandé à ce qu'on soit d'abord lavé avec le vinaigre et de l'eau chaude? Non. Je répondis, c'est parce que ces souffrants, ces gens de la Bible, ont des astuces contre le à base de graisse de grenouille, de peau d'orange et de talc. Alors les gens autour crièrent cela, ils crièrent. Allahu Akbar. Quant à lui, le chef de la bataille, Ria, voulut prouver qu'ils ont été capables, yani, et le feu ne va pas brûler. Alors il dit, moi et toi serons enroulés dans une pièce après que ait été enduit de soufre. Je lui ai dit, lève-toi. Toi, c'est-à-dire tu es un homme, lève-toi, en insistant. Après quoi, il a, en faisant semblant d'enlever sa chemise. Non. Mais je lui ai dit, non. Non, non, non. C'est pas maintenant que tu te jettes dans le feu. Non. Jusqu'à ce que tu laves avec de l'eau chaude, du vinaigre. Ensuite, il fit semblant de le faire, comme c'est leur habitude. Et il a dit que celui qui aime porte un fagot de bois. Un fagot de bois. Et yani, on va se jeter à l'intérieur, etc. Cheikh Islam a dit, je dis, c'est une perte de pour disperser la foule et ne pas arriver. Hey, toi qu'on aille mettre, on va chercher les haches, etc. pour amener du fagot de bois. Il a dit, c'est une perte de temps. Oh, moi, l'astuce. Allumons plutôt une lampe maintenant à huile. Allumons une lampe à huile. Voyez, pas, je saurais bien. Aïe, c'est toujours comme ça. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? J'ai quitté le salon dans le but, peut-être ça marcherait mieux. Donc, le chef de la bida, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a fait semblant d'enlever sa chemise. Mais je lui ai dit non, pas maintenant. Non, jusqu'à ce que tu te laves avec de l'eau chaude et du vinaigre. Ensuite, il fit semblant de le faire, comme c'est leur habitude. Et il a dit que celui qui aime le prince apporte un fagot de bois. Alors je dis, c'est-à-dire, Aya, maintenant, qui va à la forêt nous ramener du bois? Alors je dis, c'est une perte de temps pour disperser la foule et ne pas arriver au but. Mais allumons plutôt une lampe à huile dans laquelle nous ferons entrer mon doigt et le tien après les avoir lavés. Celui dont le doigt brûle, celui dont, entre nous, le doigt brûle, qu'Allah Ta'ala le maudisse. Ou alors je dis, il sera vaincu. Il a dit, quand je dis cela, il changea et fut humilié. Fut humilié. Naam. Tayeb, toi tu prétends que tu peux te jeter dans le feu. Alors, moi aussi je peux faire cela. Et que celui qui d'entre nous soit brûlé, que Allah Ta'ala le maudisse alors. Mais d'abord va te laver. Pourquoi? Yani, tu t'es massé, tu as massé ta peau avec de la graisse de grenouille et de la peau d'orange et du talc. Maintenant, tu vas pas sentir les brûlures. Alors, va te laver si tu es un homme. Naam. Ensuite, l'autre, il fait semblant d'aller se laver. Il a dit, alors, allez ramener du bois de la forêt. Cheikh Islam a dit, non, ça c'est de la perte du temps. Eh, qui va aller maintenant à la forêt et couper les troncs, etc. Non, on allume une lampe. Autrefois, il y avait la lampe partout, une lampe à huile. Et on va mettre le doigt dedans, sur la flamme. Et celui d'entre nous qui aura le doigt brûlé, que Allah Ta'ala le maudisse. Et il fut humilié. Il n'a pas dit, d'accord, allez, mettons le doigt. Il a su que, maintenant que, il va laver son doigt, il va être brûlé. Mais ce qui est étonnant dans tout cela, ce qui est étonnant, comment Cheikh l'Islam, Tima Rahimahullah, a dit que celui qui soit brûlé, qu'Allah Ta'ala le maudisse. Comment ça? Tout le monde sait que si je mets mon doigt dans le feu, il va être brûlé, même si c'est dans une lampe. La lampe, je peux tenir quelques secondes, ensuite mon doigt va être brûlé sur la flamme. Comment a-t-il pu dire? Viens, on va mettre nos doigts, toi et moi, et celui qui sera brûlé, que Allah Ta'ala, yani le maudisse. Justement, Cheikh n'a pas cité ici, Hafidhahullah. Mais il a été cité ailleurs que les gens lui ont demandé après, ou là, le lendemain, ou là, ses amis intimes, ou l'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, son élève intime. Il a dit, Cheikh, comment tu as dit cela? Tu n'as pas eu peur que si tu avais, s'il avait accepté le défi, tu avais mis ton doigt, il serait brûlé. Il a dit, Wallahi, bon, j'aime pas dire ça, mais il a dit, je vais vous dire, Wallahi, j'ai passé la nuit prosterné, en disant la doua, Ya Allah, toi qui as ordonné au feu, quand on a jeté Ibrahim alayhi salam, d'être froid et de ne pas lui faire le mal, si je suis sur le vrai chemin, Naam, aide-moi pour que le feu ne me brûle pas demain. Il a dit, j'ai passé la nuit. Il a dit, quand je me suis levé, c'est-à-dire le matin, ou là, quand je suis venu le matin ici, j'avais le cœur apaisé à 100% que je n'allais pas être brûlé. Donc quand j'ai dit ça, je l'ai dit avec quoi? Avec sidq, avec sincérité. C'est comme si j'avais la promesse d'Allah que j'allais pas être brûlé. Et regardez comment Allah Ta'ala lui a donné la victoire. Lui a donné la victoire. C'est pour ça qu'il y a, il y a une chose d'authentique qui ressemble à celle-là. Cheikh Al-Albani a dit, authentique, mawquf authentique, que Khalid ibn al-Walid, vous connaissez Khalid ibn al-Walid, c'est qui? Radiyallahu ta'ala anhu. Qu'une fois, dans une bataille, où après avoir conquis une ville, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, non, l'un des kofars, des chefs des kofars, est venu lui dire, vous dites que vous avez Allah, comme ça, un dieu qui s'appelle Allah, et qui... Il ne vous arrive jamais de mal ou ceci ou cela. Naam. Regarde ici devant toutes les personnes qui sont présentes, je ne sais pas, des centaines, des milliers. Voilà du poison. Bois-le. Et on va voir si ton Allah peut te sauver. Subhanallah al-Azim. Comme ça, tous ceux qui étaient présents ne peuvent pas comprendre si tu vas leur dire non, mais... quand même, je vais pas boire le poison. Ah, ils vont dire, tu vois, tu dis que Allah est habitué. Nous, on comprend comme ça, on comprend pas autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a bu. Khalid, radiyallahu ta'ala. Ce que je vous dis est authentique. Naam, il l'a bu et il n'est pas mort, bi'idhnillahi ta'ala. Alors que, c'est interdit de boire. C'est interdit, tu veux tuer. Mais des fois, ce sont des cas, comme on appelle, spéciaux. Comme ce qui est arrivé maintenant, à Cheikh l'Islam. Toute personne qui va rentrer sans doigt, il va être brûlé. Mais peut-être que, tellement tu veux défendre la religion d'Allah Ta'ala, et tu as atteint un degré de piété, de je sais pas, de, les relations étroites avec Allah Ta'ala que il peut te faire yani, un prodige ou un miracle, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français, spécialement pour toi, pour la religion, pas pour toi. C'est ce qu'il a fait à Ibn Taymiyyah, il ne s'est pas brûlé ici, et à Khalid ibn al-Walid, quand il a bu le poison, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Tous les kuffars ont été humiliés, et peut-être la plupart sont rentrés en islam ce jour-là. Alors que c'est interdit de faire cela. C'est interdit ni à moi, ni à aucune personne. Mais ce sont des cas comme ça spéciaux. Subhanallah al-Azim. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une fatwa. Un des grands savants. Il me semble, wallahu a'lam, que c'est Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Mais, si ce n'est pas lui, c'est un autre, mais un des grands d'Arabie Saoudite, hafidhahullah ta'ala. Ce n'était pas permis. Ce n'était pas permis. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est une obéissance ou une désobéissance? Vous allez dire désobéissance, shirk. Alors, si on va les voir, c'est comme si un peu on les agréait. C'est comme si on était, on acceptait ce qu'ils disaient ou ce qu'ils nous montrent. C'est pour cela que, par exemple, ce serait permis si c'est dans le sens, par exemple, de montrer, de montrer leurs défauts. C'est-à-dire, je vois comment qu'il fait, ensuite je dis non. Cela n'est pas vrai. Voilà comment qu'il vous feinte et voilà comment qu'il fait. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un sur internet très connu qui s'appelle à peu près, je vous donne son nom à peu près, il s'appelle Michael Ange, Ange Michael, quelque chose comme ça. Très connu, un sorcier. Je pense américain, Allah Ta'ala alam. Il fait là, il fait sa sorcellerie, sa dawa, en même temps, avec une grande croix sur son cou. Donc ça veut dire, c'est un peu que ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Ça veut dire, c'est un miracle que ce que je suis en train de faire. C'est comme ça qu'il feinte les gens. Et celui-là, alhamdoulillah, il y a des, comment qu'on l'appelle? Il y a des vidéos spécialement qui montrent ces ruses, qui réfutent yani, ce qu'il fait. Subhanallah al-Adim. Entre autres, par exemple, il y a une vidéo où lui, Zama, il fait semblant de voler. Il vole yani, comme ça, de bas vers le haut. Il commence à monter, de bas vers le haut, debout. C'est pas comme disant allongé, non, debout. Donc ça se voit que c'est pas comme ça qu'on vole, subhanallah. El Mouhim, ensuite l'autre, celui qui l'a dévoilé, a mis une vidéo et lui-même, on le voit en train de voler. Ensuite il te montre, il éloigne la caméra et tu vois que il y a une grue. La grue qui est sur un immeuble, quelque chose comme ça. Et que c'est elle, s'appelle Chris Angel, voilà. Cette personne s'appelle Chris Angel, ça. Et voilà, il y a comme une grue comme ça cachée. Et il y a des fils qui sont reliés de la grue à lui, à ses épaules. Ses épaules, des fils, des câbles, pas des fils, des câbles pour qu'il tombe pas. Parce qu'on va le faire monter des, je sais pas, 100 mètres vers le ciel. Donc il faut que ça soit des câbles. Mais maintenant avec la technologie, comme vous savez, ce sont des câbles transparents. Naam. Transparent. Si tu es présent devant lui, tu les vois pas. Ils sont transparents. Qu'en est-il maintenant avec la caméra? Donc c'est impossible que tu les vois. Donc il l'a dévoilé. Et il a fait aussi une autre chose, Zama, pour comme quoi il a les miracles, etc. Zama, il a marché sur une piscine et il la traverse. Il la traverse en marchant sur l'eau. Ensuite, alhamdoulillah, l'autre aussi. A dévoilé sa ruse. L'autre aussi, yani, a marché sur l'eau et a traversé la piscine.
Ensuite, il leur a montré que il avait mis yani, ce qu'on appelle du plexiglas. Plexiglas, c'est comme du verre, mais c'est pas du verre, c'est du plastique, plastique, nam, qui traverse toute la piscine. Il la traverse, yani, et yani de long en long. Il la traverse de long en long, par exemple, là où il va marcher. Et en dessous, il y a comme des colonnes. Une colonne ici, à gauche, une colonne au milieu, une colonne à la fin. Ensuite, lui, il passe dessus. Il y a de l'eau, bien sûr. Ensuite, on laisse la piscine se remplir. Et l'eau va être un peu au-dessus du plastique que nous, on voit pas. Nous, on voit pas. Donc, quand il pose le pied, il le pose sur le plastique. Toi, tu ne le vois pas. Tu crois qu'il est en train de poser sur l'eau. Alhamdoulilah. Donc voilà, inchallah ta'ala, pour la réponse. En principe, ce n'est pas permis, sauf s'il y a yani, un intérêt. Un intérêt. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. La question suivante est une sœur de 14 ans qui dit: je souhaiterais savoir, et ça va un peu dans le même sens, s'il est permis de regarder les films de sorcellerie tels que Harry Potter, si vous connaissez, cher, tout en sachant que je n'y crois pas, mais c'est juste pour regarder. Donc une sorte de passe-temps. Barakallahu fikoum, cher.
Tu as employé un mot que j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? L'hypothèse ou quelque chose comme ça. J'ai pas compris le mot. D'ailleurs, je l'ai pas entendu. Aoud. C'est quoi? Je connais pas ce mot.
Harry Potter, en fait, c'est une personne qui a fait un livre sur une sorte d'enfant qui fait de la magie et qui va dans une école, je crois, pour apprendre de la magie, etc. Donc tout, c'est une série qui après, par la suite, est sortie en film, je crois, si je me trompe pas. Et tout ça tourne autour de la magie, en fait. C'est un enfant, je crois, qui est sorcier et qui apprend aussi la sorcellerie, etc.
C'est la même chose. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, à quoi ça sert que yani, je vois un film qui a rapport, on est en train d'apprendre des choses que Allah Ta'ala n'aime pas. Comprenez? Yani, ça risque de me donner des choubouettes. Ça risque de me déveiller, ça risque d'éveiller en moi ma curiosité. Et de dire comment il a fait cette chose. Je voudrais bien comprendre, je voudrais bien savoir, je voudrais bien apprendre et comme ça. Naam. Donc je pense, Allahu Ta'ala alam, qu'il vaut l'été, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Donc tout à l'heure c'était la sœur de 11 ans, maintenant de 14 ans, ou de 15 ans. Donc on passe maintenant à la sœur de 16 ans, inshallah ta'ala, tfadlal.
Je n'ai pas l'âge de la prochaine personne, mais c'est une sœur qui dit qu'une sœur a eu un débat avec une sœur de la mouvance Ahbash, donc des Ahbash, qui dit qu'Allah Azzawajal, qui nie plutôt la jalousie pour Allah Azzawajal, qui dit qu'Allah Azzawajal, que la jalousie n'est pas un nom, n'est pas un attribut ni un nom d'Allah Azzawajal. Si vous avez, cher, une chose à dire sur ça.
La jalousie est un attribut d'Allah Azzawajal. Naam. Et je lui conseille de ne pas faire de débat avec une ahbèche. Sauf si cette ahbèche a dans l'intention de faire la tauba et de vouloir apprendre. Sinon, si c'est pour débattre dans ton dalil, je donne mon dalil, il vaut mieux pas. Jamais, jamais, jamais un ahbèche ne revient vers le haq comme ça facilement. C'est l'une des sectes les plus égarés. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé le cœur. Et si tu es toi, nouveau ou nouvelle, et tu vas débattre, elle risque de te donner des choubouettes. Parce que pour débattre, il faut vraiment être bien armé. Comme on dit, armé jusqu'aux dents. Naam. La preuve, peut-être cette sœur, yani, n'a pas trouvé de réponse. Quand elle lui a dit, il n'est pas jaloux, peut-être qu'elle n'a pas trouvé de réponse. Va dire comment Allah est jaloux. Donc Allah ressemble aux personnes. Et tu ne vas pas trouver de réponse. Je dis, le prophète alayhi sallam a dit, la shakhsa aghyar min Allah. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus jaloux qu'Allah Ta'ala. Il a dit, et sa jalousie, c'est que son serviteur fasse le haram. Sa jalousie, c'est que son serviteur fasse le haram. Et nous, quand on dit, un sunnah ou le jama'a disent qu'Allah Ta'ala est jaloux et a la jalousie, bien sûr, rien ne lui ressemble. Ce n'est pas une jalousie comme nous. Ensuite, on sent un malaise dans le cœur et on sent de la tristesse et on veut se venger. Il y a le hasad et c'est pas comme ça. Une jalousie qui lui sied, qui est propre à lui, Azza wa Jal. Comme il a une vie, hayat, qui est propre à lui, Azza wa Jal. Naam, comme il a yani, une vie qui est propre à lui, Azza wa Jal. Comme il a yani, une parole qui est propre à lui, Azza wa Jal. Et comme ça, tout. Yani, rien ne lui ressemble et lui ne ressemble en rien à ses créatures. Bi'idhnillah ta'ala. Tfadval. Il n'y a pas dans les noms d'Allah le jaloux. Il n'y a pas dans les noms d'Allah Azza wa Jal le jaloux.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui demande, sachant que les shayatines sont des menteurs, comment sait-on que la lecture du Coran leur provoque de la douleur? A-t-on une preuve ou un texte prophétique de cela? Donc, qu'est-ce que provoque la lecture du Coran sur le djinn? Barakallahu fikoum, cher.
Je n'ai pas bien compris la question, si c'est possible de la répéter. Barakallahu fik.
Madame, cher. Donc, le frère dit, sachant que les shayatines sont des menteurs, comment sait-on que la lecture du Coran leur provoque de la douleur? C'est-à-dire, par exemple, si on leur lit du Coran et qu'ils font mine d'avoir de la douleur, peut-être que c'est un mensonge. Donc, comment sait-on que c'est vraiment le cas, donc que la lecture du Coran a un effet sur eux? Barakallahu fikoum, cher.
Ah, j'ai compris. Le shaitan étant un menteur, et un grand menteur, comme a dit le prophète, alayhi sallam, Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité en étant un grand menteur. Cela ne veut nullement dire que il ne dit jamais la vérité. Vous avez compris? Le shaitan est un grand menteur. Mais ça ne veut pas dire que il ne dit pas la vérité. D'ailleurs, le hadith a dit Sadaqak. Il t'a dit la vérité en étant un grand menteur. Donc, en étant un grand menteur, il dit la vérité. Et ici, Naam, et ici, moi ce qui m'intéresse, c'est que la personne elle-même, la personne, celle qui est possédée, celle à laquelle on fait la ruqya, c'est elle qui est en train de crier, c'est elle qui est en train de dire aïe, c'est elle qui est en train de... Donc, moi, je me suffis à ce que je vois. Maintenant, lui, s'il ment, il ne ment pas, cette personne est en train de pleurer, en train de hurler, en train de gda. Donc, moi, je continue jusqu'à ce que elle se réveille, elle se sente bien, bi'idhnillahi ta'ala, naam. Sans donner d'importance à ce que dit le kafir. Tfadval.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande. Cher, vous avez parlé des Ahmadis. Sont-ils considérés comme des égarés ou des mécréants? Et comment doit-on nous comporter avec eux? Barakallahu fikoum, cher, de nous éclairer là-dessus.
Ce que je sais, c'est que les Ahmadiyya sont considérés comme des kuffars. Naam. Parce qu'ils disent qu'il y a quelqu'un qui est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Toute personne qui dit il y a un messager qui viendra après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. Car il a démenti le prophète alayhi wa sallam quand il a dit que j'étais la nabiyya ba'di, qu'il n'y avait pas de prophète après moi. Il a même démenti le verset qui dit Khatam al-Nabiyyin, qui a dit que c'est le sceau de la prophétie, le dernier. Et ceux-là disent qu'il y a un autre après lui. Naam. Donc, quiconque dit comme ça, il est kafir. Naam. Sans doute. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadval.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, Cher, j'ai vu une vidéo sur le repentir d'un sorcier. Il a expliqué dans son témoignage comment il fallait faire pour être un grand sorcier, c'est-à-dire les étapes. Cette vidéo est largement diffusée dans les chaînes YouTube de Salafi. Pourtant, le repenti cite comment faire alors que c'est interdit d'apprendre la sorcellerie. Exactement, il a dit, pour avoir l'aide des sorciers, il faut mettre le livre d'Allah sous ses chaussures pendant 40 jours. Allah musta'an. Donc, cher, après s'être repenti, il a montré par vidéo tout ce qu'il faut faire pour devenir sorcier. Et donc, la sœur demande, est-ce que ça rentre dans l'interdiction d'enseigner et d'apprendre la sorcellerie, cher? Barakallahu fikoum.
Qu'est-ce que ça veut dire la dernière phrase? Est-ce que ça rentre dans l'interdiction d'enseigner? J'ai pas compris. Elle veut dire est-ce que ça a rapport avec ce qu'elle a rapporté du sorcier ou est-ce une question yani séparée?
En fait, cher, elle dit que normalement, à partir du moment où il s'est repenti, il ne devrait pas montrer aux gens comment faire pour devenir sorcier. Mais lui, en fait, sa niya, quand il a montré cela, c'était pour montrer aux gens comment d'où il est sorti, en fait, et ce qu'il faut éviter, et les pratiques des sorciers, comment ils arrivent à faire leur sorcellerie. Et elle veut savoir le fait qu'il montre cela. Donc, est-ce que ça rentre dans une interdiction d'Allah Azzawajal? Concernant le fait d'enseigner, d'apprendre la sorcellerie, etc. Ou est-ce qu'à partir du moment où il le fait dans un but de montrer aux gens, est-ce que, alhamdoulilah, il est pardonné ou au contraire, il est peut-être récompensé?
Non, maintenant j'ai bien compris la question. Subhanallah l'adhim, cette personne, elle a une bonne intention. Elle veut montrer, regarder, yani, comment qu'on fait pour devenir sorcier, c'est-à-dire voilà ce qu'il faut éviter. Mais cette personne, si elle a une bonne intention, elle n'a pas une bonne science. Elle est ignorante. Car elle ne sait pas, miskina, cette personne. Qu'en montrant ainsi, premièrement, il y a beaucoup de gens qui sont pas musulmans. Donc, lui, il s'en fout, il dit, hey, c'est bien ça, je savais pas, donc je vais faire cette chose. Et la deuxième, même les musulmans, les musulmans appliquent. Tous les musulmans, ils sont, alhamdoulilah, moustaqimoun. Non? Parmi les musulmans, il y a plein de pervers, fasir, qui font les grands péchés. Donc, beaucoup vont pour prendre de ses idées pour yani attirer des femmes pour séparer pour ne serait-ce que peut-être certains vont le faire avec une il va dire avec une bonne intention je le fais juste je vais essayer si ça marche dans tel couple je vais essayer de faire une farce je vais faire une farce à mon oncle et son épouse je vais voir un petit cirque comme ça je vais voir si c'est vrai s'ils vont se séparer et comme ça même ensuite lui, il va essayer une fois, deux fois, il voit que ça marche, bi-idhnillahi ta'ala, avec la permission universelle d'Allah Azzawajal. Ensuite, peut-être qu'il ne pourra plus jamais s'arrêter, ya'adou billah. Donc, ce frère, ce sorcier qui s'est repenti, qu'Allah ta'ala lui pardonne, a fait une grande faute, na'am, en montrant comment qu'on fait pour devenir sorcier. Il aurait dû ne jamais montrer cela et dire seulement que, yani, c'est quelque chose dont Allah Ta'ala nous a sauvés, préservés. Gloire à Allah Ta'ala. Et je demande à tous les sorciers de faire la tauba. C'est tout. C'est tout. Naam. Allah alam, tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. La sœur avait une deuxième question, mais désolé, on ne peut prendre qu'une question par personne, car il y a énormément de questions. Barakallahu fikoum pour votre compréhension. La question suivante d'une sœur qui dit, Salam alaykoum, cher. Par rapport au verset disant que les diables ne descendent que sur les calomniateurs et pécheurs, est-ce que cela veut dire que les personnes touchées de sorcellerie sont forcément des pécheurs? Ou ont fait un péché? Et le fait qu'elle éprouve beaucoup de difficultés dans les adorations, donc après la sorcellerie, chère, telle que de la paresse, pour apprendre la science ou le fait de porter le djilbab, etc. Est-ce qu'elles auront une excuse du fait du sihr ou elles n'ont pas d'excuse? Barakallahu fikoum, cher.
Alaykoum salam. Le verset qui a dit que yani, est-ce que vous voulez que je vous apprenne sur qui descendre? Non. Ensuite, il a dit qu'il descendait sur tout calomniateur et pécheur. Ne veut pas dire systématiquement que toute personne qui sera possédée, c'est un calomniateur et un pécheur. La preuve, quoi? La preuve que le prophète alayhi salatu salam a été ensorcelé. A été ensorcelé, ça. Donc, on pourrait comprendre le verset peut-être en disant, maintenant, ça s'applique. Comme quoi les chayatines descendent sur les calomniateurs et les pécheurs, ça pourrait s'appliquer sur celui qui demande, celui qui lui-même voudrait que le shaitan sur lui. Comme ceux qui font le captage. Le captage, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui demande au shaitan, il lit des incantations et des choses, il demande au shaitan de rentrer pour Zama, Zama pour parler et montrer ce qu'a telle et telle personne. Donc, celui-là s'applique sur lui le verset à 100%. Naam. Il est pieux, alhamdoulilah, mustaqim, et il fait l'adhkar, il fait, et on lui a fait un sihr, où là il a été possédé. Naam. Sans le vouloir, par exemple, il a écrasé avec son pied un djinn. Et le djinn s'est vengé de lui, il a frappé. Il a frappé en le possédant. Là, tu n'es ni pécheur ni calomniateur. Naam. Tu as fait une fois, sans le vouloir, tu as été, yani, on s'est vengé contre toi. Mouhim. Reste maintenant ce qui s'ensuit. Ce qui s'ensuit comme paresse et comme un peu s'éloignement du Coran, etc. Naam. La personne doit se ressaisir. Surtout si elle sait qu'elle a du sihr. Si elle veut guérir. Son remède, c'est quoi? C'est le djihad. Le djihad du shaitan qui est en elle. Maintenant, tu sais que tu as un shaitan en toi, il faut lui faire le djihad. Il y a un ennemi en toi. Subhanallah. Si l'ennemi était en face de toi avec une épée, tu prendrais toutes tes dispositions pour le tuer. Qu'en est-il maintenant? Il a fait un pas davantage et il est rentré dans ton corps. Il est en toi. Il t'empêche d'adorer Allah. Il voudrait te pousser à faire le haram. Donc la personne qui a un aql rajih, qui raisonne bien, hein, normalement, ne doit pas dormir une seconde en le combattant jour et nuit. Et le combat, c'est quoi? En revenant et en ne pas se laissant aller. Et musique et rire beaucoup et voir les films. Et tout ça, hein, ça, comment on dit? Ça, attendez, il y a le verbe, ça l'encourage. Ça l'encourage à ce qu'il reste dans le corps. Maintenant, si la personne est vraiment, c'est pas elle qui commande, elle a un sihr, ou pour elle ne sait pas ce qu'il dit, ou elle ne sait pas ce qu'elle fait, ou là, Allah subhanahu wa ta'ala, ne porte pas une charge à une personne plus qu'elle n'en peut supporter. Allah ta'ala alam.
Comme cher. Question suivante d'un frère qui dit: comment savoir si on est atteint de sihr ou de mauvais œil et comment s'en guérir? Vous y avez en partie répondu, voire même bien répondu à l'instant.
Non, ceux qui sont des spécialistes dans la ruqya, les savants, etc., ont montré que le sihr avait des symptômes propres à lui. Et le mauvais œil avait aussi des symptômes propres à lui. Non. Et des fois, c'est difficile de discerner les symptômes du sihr et du ou alors des symptômes du mauvais œil. Des fois, c'est tellement compliqué et ça se ressemble beaucoup que des fois, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Ce qui nous intéresse de quoi? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas quels sont les symptômes que j'ai, du cirque ou du mauvais œil, mais comment faire guérir? Non. Comment faire pour guérir? Bien sûr, vous allez dire, si je sais, si je connais les symptômes de la maladie, m'aide. Pour, quand je sais quelle est ma maladie, je lui cherche le médicament adéquat. Je dis ça, c'est vrai. Mais quand c'est difficile à discerner entre les symptômes, qu'est-ce qu'on fait? On prend un médicament général. On prend un médicament général. Normalement, c'est la ruqya qui permet de discerner. Non. Car la plupart du temps, celui qui a le mauvais œil n'a pas, par exemple, n'a pas, par exemple, des douleurs. N'a pas des douleurs dans le ventre. Celui qui a le sihr. Surtout si on lui a fait manger le sihr. Non, toujours des douleurs dans le ventre et qui veut vomir. Non, tout le temps qui veut vomir, la tête qui tourne. Celui qui a le mauvais œil, la plupart du temps, il devient paresseux, il devient, il se languit, il est dégoûté, il bâille, bâille. Sans raison, il bâille, il n'arrête pas de bâiller. Même lui, il s'étonne, il dit pourquoi je bâille comme ça, c'est pas Allah l'adem. Al-Mouhim, la personne doit faire deux choses. La première chose, préventive. Et la deuxième, curative. Préventive, c'est l'adhkar. Adhkar. Naam. Et lire le Coran. Éloigner où il y a de la musique, où il y a le haram. Naam. S'éloigner. Avoir toujours le cœur en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est lire Ayat al-Kursi, lire le Mu'awwidhat avant de dormir, quand on se réveille dans la journée. Ça, c'est préventif. Ensuite, curatif, si maintenant on est malade, on a ruqya inshallah ta'ala et on doit beaucoup revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et lui de nous aider. Et comme certains ont dit, apprendre la aqida. Ils ont dit apprendre la aqida est l'une des choses les plus principales pour se soigner, du sihr et du djinn et du mauvais œil et tout ce qui s'ensuit, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal. Bon, quelqu'un va dire, juste une curiosité, quelqu'un va dire qu'est-ce que ça a à voir la aqida avec, la guérison et du mauvais œil, etc. La réponse, vous l'aurez comprise. Le sihr et le djinn et le mauvais œil, etc. Pourquoi il est dans la personne? Non, c'est surtout parce qu'il a trouvé un endroit qui lui convient. L'obscurité, les ténèbres, loin d'Allah. Loin. Mais maintenant, quand j'apprends la aqida, à chaque fois que j'apprends une chose, mon cœur s'illumine. À chaque fois que j'apprends une chose dans la aqida, mon cœur s'illumine. Et à chaque fois que mon cœur s'éclaircit et s'illumine, il y a une obscurité et des ténèbres qui sortent de mon cœur. Marcher les deux à la fois, ça. Ou bien il y a obscurité, ou bien il y a lumière. Donc, à chaque fois que maintenant ton cœur commence à être illuminé, ensuite, il est tellement plein de lumière, il n'y a pas une lumière beaucoup plus grande que la lumière de la aqida, vous savez ça. La aqida, c'est une lumière. Maintenant, quand ton cœur est plein de lumière, ce qu'il y a à l'intérieur n'accepte pas. Il ne peut pas rester à l'intérieur. Il est découvert. Lui, il vous livre comme une chauve-souris. Dans un tunnel noir, plein d'obscurité. Maintenant que c'est illuminé, il veut quoi? Pour aller posséder une autre personne qui a dans son cœur la bid'a et l'insouciance et. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. La question suivante est la question d'une sœur qui demande et qui dit avant tout, cher, qu'Allah vous préserve et vous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà, ainsi qu'aux amines et nous tous. Amine. Donc, cher, depuis 8 ans, ma mère a connu un homme en Algérie qui fait ruqya aux gens et ayant fait un pacte avec les djinns. Il ne vit que de cela et est connu pour cela. Ma mère n'arrive pas à s'en détacher. Cet homme a créé beaucoup de dégâts dans notre famille. Nous avons tous été témoins de ses actes de shirk. Nous avons tous été malades de sihr, de possession de djinn. Mon frère de 23 ans a juré par Allah de le tuer, en se basant sur la charia, que le sorcier doit être tué. Je crains pour lui par rapport à la justice algérienne. Donnez-moi un conseil que je puisse lui transmettre, cher. Que devons-nous faire? Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Barakallahu fikoum, cher.
Est-ce que j'ai bien entendu, elle a dit mon frère de 23 ans? Est-ce qu'elle a cité 23 ans? C'est moi qui invente dans ma tête. Alhamdoulilah. Je dis, si elle a une influence sur son frère, et si les conseils qu'elle donne à son frère ont un impact sur lui, de façon à ce qu'il l'entende, par exemple, et lui obéisse. Alors qu'elle lui dise que, yani, premièrement, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce qu'il va faire, Naam, contient deux choses fausses et dangereuses. La première chose, c'est quoi? C'est que ce qu'il fait est contraire à la charia. Ce n'est pas lui qui fait les houdoud. Ce n'est pas lui qui exécute. Naam, c'est le gouverneur qui doit exécuter et mettre à mort telle ou telle personne. S'il va dire, mais le gouverneur n'applique pas, je lui dis, ça c'est pas ton ressort. Yom al-Qiyamah, Allah Ta'ala va dire au gouverneur, pourquoi tu n'as pas appliqué? Pourquoi tu n'as pas appliqué la charia en général et sur ce sorcier en particulier? Donc toi, c'est pas ton problème. La première. La deuxième chose fausse et dangereuse qu'il va faire, là, il va se trouver en prison ou bien pour à vie ou bien on risque de gagner la peine capitale. Donc il risque ou bien la peine capitale ou bien se trouver en prison à vie. Et la troisième chose importante, parce que j'ai pas cité trois, j'ai cité seulement deux choses, comment qu'il va faire Yawm al-Qiyamah? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que yani, toute personne chaque personne est, Yom al-Qiyamah, sera à l'aise et à l'aisance dans son dîn. Il a dit, sauf une personne qui a fait couler du sang. Vous avez compris? Et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait couler du sang en tuant quelqu'un. Donc, yani, c'est pas une chose facile. Donc, donne-lui des nasihas et dis-lui, c'est pour ton bien, dans cette dunya et dans l'au-delà. Dans cette dunya, tu es jeune, tu as 23 ans, pour ne pas passer ta vie en tôle. Naam. Et dans l'au-delà, car tu risques de te trouver dans une situation où personne ne peut faire quelque chose pour toi. Naam. Tfadlak.
Barakallahu fikoum, cher. Et je tiens juste à dire aux personnes qui me contactent en privé que les questions ont déjà été prises hier. Donc, cher est en train de répondre aux questions que nous avons récupérées hier. Barakallahu fikoum, de votre compréhension. Et la question suivante, cher, est la question d'une sœur qui demande. Une sœur que je connais est éprouvée en ce moment. Quand elle dort, elle entend un gros bruit très assourdissant. Et au moment où elle entend ce bruit, elle se réveille brusquement et elle sent qu'on essaie de lui faire avaler quelque chose par la bouche. Ceci lui est arrivé plusieurs fois Et la toute dernière fois, elle a senti qu'on lui tenait le bras. Savez-vous, cher, si cela vient du ciel? Et comment faire pour repousser ce mal? Alhamdulillah, elle est assidue aux invocations du matin et du soir et essaye de garder les ablutions tout le temps. Elle a un doute sur la personne qui lui veut du mal. Elle sait que sa mère est en relation avec un sorcier et elle se méfie de sa mère. Mais elle ne sait pas comment doit-elle se comporter envers sa mère du fait qu'elle lui cause souvent du tort. Barakallahu fikoum de la conseiller par rapport à cette épreuve, cher.
Par rapport à sa mère, Nam, faire un peu. Nam. Et dire, si elle peut pas, alors dire en général. Dire en général, c'est comme quoi Zamel parlait d'une personne qu'elle connaît pas. Elle dit, par exemple, oh ma mère, si tu savais, ces temps-ci, je sens comme les djinns qui me viennent dans le songe, qui veulent me faire du mal, etc. Mais wallah, elle fait semblant, Zamel, comme si elle sait pas qui en est la cause. Wallah, l'adim. Que je ne pardonne pas Yom al-Qiyama à celui qui me fait. C'est sûrement quelqu'un qui me déteste, etc. Yani pour éloigner les doutes, pour qu'elle sache pas qu'elle parle de sa mère. Personne qui me veut du mal ou là qui veut se venger sur moi, Allah al-Azim, que je lui pardonnerai pas Yom al-Qiyama. Car elle sait pas peut-être, mais elle est en train de faire cette personne en envoyant des shayatin et elle est en train de faire du mal. Alors que le musulman. Alors que le prophète Aslam a dit le musulman, c'est qui le musulman? C'est celui qui, ou là-dedans, les musulmans épargnés du mal de sa main et de sa langue. On fait du mal avec sa main. Ça c'est pour sa mère. Revenons à ce qui se passe la nuit, ce sont des djinns, ou un djinn, un ou dix, Allahu alam, mais djinns. Qui sont envoyés par des sorciers spécialement pour faire avaler à la personne du sihr. Pour un but, Allah alam, que le sorcier connaît et que la personne qui a payé le sorcier connaît aussi. Et le fait qu'elle sente comme ça qu'elle veut avaler, moi-même, plusieurs fois ça m'arrive. Parce qu'une fois ou deux fois, tous les mois. Je suis en train de dormir, ensuite je me réveille en sentant quelqu'un m'a jeté comme une cuillère comme ça. Une cuillère, ça dit remplie de quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi cette chose. Et que je dormais sur mon dos et que j'avais ma bouche ouverte ou les lèvres ouvertes. Donc il me jetait quelque chose dans ma bouche. Je me réveille en essayant de cracher. Et en essayant de dire si c'est possible de lire le Coran. Donc cette personne, alhamdoulilah, si yani, elle doit s'éloigner de l'ghafla, l'insouciance, s'oublier en face de la vie avec la musique, s'oublier en train de rire toute la journée. Naam, elle doit se ressaisir, lire le Coran, al-adhkar, tout le temps, astaghfirullah, subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, Allahumma kfini sharra man yuridu an yu'dhiyani, Allahumma يكفيني شر الأشرار شر الحسد شر المجرمين شر السحرة et comme ça tout le temps des doigts نعم et surtout alhamdoulilah elle a dit les hommes en la nuit ayat al-kursi قول هو الله قول الناس إلا donc qu'elle dit elle-même voyez que alhamdoulilah plusieurs fois elle se réveille avant que on ne puisse lui faire manger la chose bi'idhnillah ta'ala. Qu'Allah Ta'ala la guérisse, il nous guérisse tous. Il nous préserve des shayatins et des sorciers. Et de leurs acolytes.
Amin. Barakallahu fikoum, cher. Donc la question suivante est la question d'une sœur qui dit: cher, je sais que le fait d'avoir peur des djinns est un shirk dans la peur. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de voir un djinn. Est-ce que je rentre dans ce shirk? Qui est un grand péché. Ah, faut un shirk. Donc lorsque vous avez dit dans le cours que le djinn descend sur celui qui est un grand pécheur, est-ce que cela veut dire qu'il va posséder cette personne ou est-ce que ça veut dire qu'il va accepter de travailler avec lui? Barakallahu fikoum, cher.
Il y avait plein de coupures, j'ai pas compris la question. Il y avait plein de coupures, j'ai pas compris la question. Tfadl. Je l'ai pas entendu.
Ah, cher, je vais réessayer. Je ne sais pas si les frères aussi vous avez des coupures. Alhamdoulilah. Donc la question de la sœur est, cher, je sais que le fait d'avoir peur des djinns rentre dans le shirk de la peur. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur de voir un djinn. Donc est-ce que je rentre dans ce shirk? Car ceci est un waswas qui me travaille. De plus, cher, dans votre cours, vous avez dit que le djinn descend sur celui qui est un grand pécheur. Est-ce que cela veut dire qu'il va le posséder ou est-ce qu'il va accepter de travailler avec lui? Barakallahu fikoum, cher.
Ensuite, en fait, la personne ne doit pas pondre entre la peur interdite, qui la peur de laquelle découle le shirk, la peur du djinn, et la peur, yani naturelle, la peur naturelle. Non, elle est en train de parler de la peur naturelle. Sinon. Qui n'a pas peur de voir un djinn? Qui de nous, on va lui dire, écoute, on va fermer la chambre et on va faire appel à un djinn et il va se montrer là, maintenant devant nous, peut-être avec deux cornes et une queue et je ne sais pas quoi. Qui ne va pas avoir peur? Même si c'est un être humain. Il va dire à un djinn de venir maintenant, d'être présent devant nous, et aller en forme humaine. On ferme la porte à clé, on n'est que deux. Je ferme les yeux, je rouvre, je trouve quelqu'un, yani, assis en face de moi, même avec un kamis et avec la barbe, et je ne sais pas. Qui n'a pas peur? C'est pas cette peur. Cette peur est une peur naturelle. Naturelle. C'est comme ça que a dit Cheikh Ibn Outaymin dans Kitab Tawhid. Ou bien Cheikh Fawzan dans le livre qui va venir, qu'on est en train d'étudier. La peur naturelle. Mais ce qui est interdit, c'est yani, d'avoir une relation avec le djinn, par exemple, de lui demander des choses de lui, au point de faire une désobéissance, ou de lui demander de te protéger. Voilà, demander protection, demander de l'aide. De l'aide. Regardez, c'est pour ça, regardez ce que le Coran, regardez, lorsqu'il a dit. On va voir en français. Or, il y avait parmi des membres chercher protection auprès des parmi, c'est pas Paris, parmi les djinns, mais cela ne qu'accroître leur détresse. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait parmi les humains des hommes chercher protection auprès des hommes. Parmi les djinns. Ce qui est haram. Non. Ce qui est haram. Tu cherches autrefois les accords quand ils voyageaient. On arrivait dans un oued. Vous savez, un oued comme ça, comme une vallée. Yani, là, ils descendent comme ça. Il y a une qui coule. Là, il y a des buissons, des arbres. Là, et ils vont passer la nuit là-bas. Oh, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Des loups, des crocodiles. Non, ils ont peur des djinns. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Quelqu'un, par exemple, se lève, tous se lèvent et disent, Allahu alam, qu'est-ce qu'il dit? Oh toi, le chef des djinns, de cet endroit-là. Nam, au nom de voyageurs qui sont. On demande que tu nous protèges cette nuit et que tu nous englobes dans ta protection afin que rien ne nous arrive la nuit. Et ils sont donc. Celui-là, il a eu peur du djinn au point de lui demander protection. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait demander à Allah Ta'ala de le protéger, ça suffit. Je ne demande pas au djinn de me protéger contre lui. Lui, Allah Ta'ala de protéger du djinn. Je lis ayat al-kursi, je lis qul Allahu, je fais la doua bi kalimati Allah min sharri ma khalaq. Et comme ça. A'oudou billah min kulli ha, c'est pas celui-là. Hadak ta' al-ayn. Vous avez compris, donc il y a une différence. Avoir peur du djinn, la peur naturelle, et avoir peur, la peur de shirk, qui te pousse vers le shirk, à lui demander protection, et à ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de lui. Naam, tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui demande: peut-on voir dans nos rêves celui qui nous a ensorcelés et où se trouve la sorcellerie, cher? Barakallahu fikoum.
Le rêve n'est pas un signe évident. Il se peut qu'on voit pour cela que c'est interdit de se baser sur le rêve en disant donc oui, et ensuite on va prendre une position. Que puisque je sens que je suis ensorcelé, j'ai vu dans le rêve que c'est ma tante qui m'a ensorcelé, donc je prends la pose d'aujourd'hui, je ne le plus, ou je ne vais plus chez elle, ou je lui réponds plus au téléphone, je l'invite plus, et comme ça. Ça c'est haram. Pourquoi? Parce que le shaitan joue, surtout dans les songes. Et il vient dans les songes et il joue. Et il voudrait bien que tu rompes avec, par exemple, ta tante. Il va dire, je vais lui créer des problèmes avec sa tante. Il vient dans le rêve, il te dit, t'as fait le sihr. Naam. Donc, on n'a pas le droit de se baser sur le rêve. Même si des fois Allah Ta'ala donne cette, disons ce, je sais pas si ça s'appelle prodige, donne, disons ce bienfait de montrer aux musulmans, de lui montrer son ennemi, et de lui montrer celui qui lui fait mal. C'est possible. Mais on n'a pas le droit, yani, de prendre des décisions et une position se basant sur le rêve. Le maximum qu'on puisse faire, c'est de faire des recherches. J'ai vu dans le songe que c'est ma tante qui me fait du sihr. Maintenant, je voudrais quoi? Je laisse ça entre moi et mon âme. Et je commence à faire. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu? Et ce que j'ai vu vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien c'est le shaitan qui veut jouer de moi pour que je déteste ma tante et je l'accuse? Et ça va rompre entre nous les liens. Et je fais comme j'ai dit, enquête bi'idhnillahi ta'ala pour voir où ça va aboutir bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui demande: j'espère que vous allez bien, cher. Voilà, je me posais souvent une question et j'en profite que cela concerne le cours pour vous la poser. Donc c'est la question d'une sœur plutôt, qui dit: en étant petite, moi, ma sœur et mon frère, on avait attrapé des verrues à nos doigts. Pour les enlever, ma mère nous a fait manger des pommes et elle nous a dit qu'avec les éplucheurs, on devait les enterrer durant la nuit et qu'après cela, tout partirait, Inch'Allah. Suite à cela, tout a disparu. Donc en grandissant, on s'est toujours demandé si ce n'était pas une sorte de sorcellerie. Pouvez-vous nous éclairer, cher? Barakallahu fikoum.
Naam, je voudrais juste, Inch'Allah Ta'ala, que tu me rappelles C'est quoi verrue? J'ai oublié. C'est pas quelque chose, yani, comme un bouton? Un bouton qu'on a sur le doigt ou là c'est quoi? Tfadl. Est-ce que Abu Zakaria, est-ce que c'est ce qu'on appelle chez nous, on dit en arabe soulel? Est-ce que c'est ça on dit soulel? Abu Zakaria, est-ce que tu as entendu ma question? Est-ce que Abu Zakaria est présent? Et les autres, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi Abu Zakaria ne répond pas? Pour être sûr de ce que je dis. Est-ce que je peux voir sur le image sur Google, c'est quoi verrue? Une seconde, je vais voir ce que c'est pour vous dire si c'est ce qu'on appelle en arabe soulel ou non. Une seconde. Je crois que on n'est pas en train de parler de la même chose. Je viens de voir verrue sur Google. On m'a montré des comme ça, des comme des boutons comme ça. Yani, au-dessous du pied, au-dessous des orteils et des doigts du pied. Alors que moi, les verrues dont je suis en train de parler, ce sont comme des boutons qu'on a par exemple sur la main du côté haut. C'est pas de la paume, en haut. Regardez lui, super. Une seconde. D'accord, donc c'est tout là, là, خلاص. Maintenant, Om Sana dit c'est tout là, là, c'est tout là, là, خلاص. Merci justement. Qui a dit que on mangeait des pommes et ensuite les épluchures, on allait les enterrer et le lendemain on se trouvait guéri. Là, c'est une sorte de sorcellerie. Si on croit que ce sont les épluchures qu'on a enterrées qui ont enlevé les verrues. Vous avez compris, ça n'a rien à voir. Moi, je connais ici, là où j'habite, une voisine spécialiste dans le fait d'enlever ces verrues. Comment qu'elle les enlève? La personne vient chez elle. Et cette voisine, elle prend une plante. Une plante, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle. Hein? Cette plante, disons, qui est longue comme ça, comme. Donc, elle la brûle. Elle brûle le côté de la plante et elle le met sur eux, sur les verrues. Sur ce verru ou cette verrue. Ensuite, donc elle brûle un peu les verrues. Et le lendemain, bi'idhnillahi ta'ala, tu te lèves, tu n'as plus de verrues. Alors que tu pourrais prendre tous les médicaments du monde, les verrues ne partent pas. Tu prends une lame. Une lame à raser. Avec le couteau, avec une lame, ça revient, ça repousse. Donc là, maintenant, ce que fait cette voisine? C'est pour ça que j'ai demandé moi à ma femme. Est-ce qu'elle lit des choses? Si elle lit des choses et elle dit que c'est moi seulement ici qui a ce prodige ou ça vient d'Allah. Si elle dit comme ça, tout ça. Ça rentre dans la source. Mais si c'est à cause de la plante et que cette plante, si on la brûle, elle a un spécial sur les verrues. Il y a quelque chose qui sort d'elle, de la plante par exemple, quelque chose qu'on ne voit pas ou je ne sais pas, une eau ou je ne sais quoi, ou un produit qu'on ne voit pas, et qui enlève les verrues. Ça, ce n'est pas interdit. De sorte à toute personne alors. Toute personne. Qui peut se débrouiller cette plante en la brûlant et ensuite elle frotte sur les verrues et les verrues partent. Dans ce cas, ce n'est pas de la sorcellerie. Mais si la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen dit la règle dans Kitab Tawhid. Il dit quoi? Il dit tout médicament ou le tout moyen qui n'est ni religieux, c'est-à-dire ni inscrit dans le Coran, ni inscrit dans la Sunna, ni, voilà le troisième, c'est très important. Car ça ne suffit pas qu'il soit dans le Coran ou la Sunna. Il y a des médicaments qui sont ni dans le Coran ni dans la Sunna. De résultats, qu'il dit, s'il n'est dans le Coran, ni dans la Sunna, ni il a été, comment dirais-je, X par les gens, un résultat. Il a dit donc si c'est pas un de ces trois cas, c'est pas permis de le faire. Vous avez compris? Comme des fois par exemple les gens disent je suis malade de rhumatisme, et Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité aussi dans Kitab Tawhid. Je suis malade de rhumatisme, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui donner une sorte d'anneau, elle va mettre dans sa main ou dans son pied ou autour de son cou. Examen, il va guérir du rhumatisme. Cheikh a dit, ça rentre très dans le shirk maintenant. Pourquoi? Parce que l'anneau qui guérit du rhumatisme ne se trouve ni dans la sunna, ni ça a été expliqué. Il n'y a aucun entre l'anneau et le rhumatisme. Je me souviens, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, 5 ou 6 ans ou 7 ans, je jouais comme tous les enfants. Comme vient de raconter la personne maintenant, celle qui, sa mère lui donnait des pommes. Qu'est-ce qu'on faisait? De temps en temps, quand on était enfant, de temps en temps, nous pousser sur l'œil, un petit bouton. Je ne sais pas. Kibrit est efficace. Non, faut l'essayer. Si ça marche bien, alhamdoulilah. Il y a un petit bouton qui de temps en temps nous apparaît sur l'œil. Comment ça s'appelle? C'est pas à l'intérieur de l'œil. Hein? Là où poussent les cils. Là où poussent les cils. Surtout en bas. Des fois c'est en haut, des fois c'est en bas. Des fois on a un bouton comme ça qui reste 15 jours, des fois un mois, des fois. Hein? On a tous ça eu, ça. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce bouton? Si vous savez. avait pas raison. Le mohème, quand j'étais petit et je jouais avec les enfants, nous avons un orgue à haut, on se gueule haut. D'après toi, vous avez le bouton qui vient. Qu'est-ce qu'on faisait? Dis-moi, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qui nous a appris les enfants? Comment faire pour enlever ce bouton? Vous n'allez pas croire. On prend trois cailloux. On met un caillou. On colle le deuxième caillou à lui. Le troisième à lui. Donc les trois cailloux sont collés. Ensuite, on pose un quatrième caillou sur les trois. Vous avez compris ce qu'on fait? Trois cailloux, on les rassemble. Ensuite, on pose un caillou sur les trois. Maintenant, le caillou ne tombe pas. Non. Et on prenait, je ne sais pas, une sorte de blé. Un blé, comme c'est un grain de blé. On le tourne sept fois sur les cailloux. On le pose sur le caillou qui est tout à fait en haut. Non, il y a trois cailloux et un dessus. On pose ce grain de blé sur le caillou qui est dessus. Et Zama, Zama, qu'est-ce qu'on croyait? On nous a appris que maintenant, celui qui va pianer, il y en a qui disent une bague en or, celui qui va faire tomber ces cailloux qu'on a placés, il va les faire tomber sans les voir, bien sûr. Quelqu'un qui va marcher dans la rue, il va les faire tomber. Il va faire tomber les cailloux en même temps le grain. C'est lui, Yanni, qui va avoir le bouton. Le bouton va sauter de moi et va aller vers la personne qui a fait tomber les cailloux. Comme ça, on nous a appris, bien sûr. Maintenant, tu vas voir que ça n'a aucune relation. Non, il fallait nous apprendre de faire des doigts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir. Mais quand il n'y a pas l'ilm, quand il n'y a pas la science, quand il n'y a pas la aqida, quand il n'y a pas les gens de la sunna, on t'apprend des bidas. On t'apprend des bidas. Allah Ta'ala nous préserve. Atfaddal.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Question suivante, question d'une sœur. Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Un moment, ça a coupé et j'ai plus rien entendu. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve. Dans le cours, vous avez parlé d'un hadith. Celui qui sodomise sa femme ou se rend chez un devin, tout en croyant à ce qu'il dit. En ce sens, il a mécru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si un couple a commis ces choses, la sodomie et le rapport en état de menstru, tout en sachant que c'était haram, mais c'est repenti, est-ce que les œuvres étaient devenues nulles et sont-ils devenus mécréants? Barakallahu fikum shir. Qu'Allah vous assiste et vous donne le Firdaus, ainsi qu'à nous. Amin.
Naam, wa alaykoum salam, wa rahmatoullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. D'oublier, c'est toi. Qui a qui?
qui va venir en âme. Allah Ta'ala qui va venir en Algérie, Inch'Allah Ta'ala. Vous dites que ça coupe. Vous dites que ça coupe. Non, si ça coupe, je dois sortir et revenir. Non, si ça coupe, je dois sortir et ça, dites-moi maintenant, ça coupe ou ça coupe plus, barakallahu fikoum. Sinon, je sors et je reviens, inshallah ta'ala. Là, c'est bon. Est-ce que vous m'avez entendu quand j'ai dit s'il y avait une personne qui, yani, venait s'étancier en Algérie? Vous avez entendu ça ou pas? Et maintenant, est-ce que vous avez entendu? Ah oui, alhamdoulilah. Ensuite, Tamla, rappelle-moi une autre chose, rappelle-moi.
Est-ce que toi, tu n'as pas dit que ces temps-ci, tu es allé en France et que tu es allé revenir? Est-ce que tu as dit ça ou non? Hier ou avant-hier, tu ne m'as pas dit que tu devais aller en France? Ou bien est-ce que tu as dit un autre pays? Taïb. Un frère vient bientôt, Inch'Allah, de Lyon. Alhamdoulilah. Donc, Ibn Jazairi prend le nom du frère, je lui donne le numéro de téléphone d'un autre frère. D'un autre frère qui se trouve à... Une seconde, comment s'appelle cette ville? S'appelle... Snachouf, je l'ai écrit ici. S'appelle Tonon-les-Bains. La ville s'appelle Tonon-les-Bains. Inch'Allah, Inch'Allah Ta'ala, son numéro pour le contacter, Inch'Allah Ta'ala. Non. Ensuite, bon. Seria Tonon-les-Bains. Ça. On va laisser ça pour la fin du cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est mieux. Je disais par rapport à la question, c'était quoi la question? Écris quelque chose pour la question. J'ai oublié c'était quoi la question, écris un mot. Un mot sur la question. Ah, aywa. Hier, quand j'ai parlé de sodomie, de rapport à l'état de monstru, vous savez, Al-Sunna ou Jama'a, quand il parle, il voit avec qui il parle. Quand ils sont en train de parler, est-ce qu'ils sont en train de faire un cours ilmé de science ou bien ils sont en train de faire une exhortation? S'ils sont en train de faire une exhortation, ils ne doivent pas rentrer dans les détails, mais laisser les gens craindre Allah Ta'ala et avoir peur. Mais s'il parle maintenant avec des gens de science, des talibouin, hein, là il donne des détails. C'est pour ça que quand le hadith a dit que quiconque fait un rapport avec sa femme en monstrue ou bien en sodomie, ils ont mécru. Si c'est des talibouin, on leur dit, écoutez, la mécréance se divise en deux, la grande et la petite. Si le couple, en faisant la sodomie ou dans les monstrues, reconnaît le statut de l'illicite, que c'est illicite de faire ce qu'ils font, alors dans ce cas, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen dans Kitab Touhid, il a dit, ils ont fait de la petite mécréance, c'est-à-dire un grand péché, c'est tout. Mais si le couple dit, c'est pas interdit de faire la sodomie, c'est pas interdit de rapport dans les monstrues, et ils font, dans ce cas, ils ont fait la grande mécréance, ils sont sortis de l'islam. Mais nous, quand on parle aux gens, on leur dit pas ce que je viens de vous dire maintenant. Car la personne risque de dire, ah bon, donc c'est la petite mécréance, c'est pas grave. Moi l'essentiel c'est ma shahwa. Moi l'essentiel, j'ai eu ce que je voulais. Et en bas de la petite mécréance, c'est pas grave, je vais faire la tawba, je prie deux rakat. Mais si tu lui dis c'est la mécréance, tu le laisses comme ça avoir peur. Ne fasse pas le haram comme ça disent les gens de la Sunna. bien sûr, pour faire la sodomie, ou bien pour faire la chose dans les monstrues, il faudrait qu'il soit deux, l'homme et la femme. C'est pour cela que les deux se partagent quoi ? Se partagent les péchés. Et celui qui a insisté plus que l'autre, c'est lui qui a la plus grande part de péché. Car il y a quelqu'un peut-être qui a demandé à l'autre de faire, alors que l'autre ne pensait pas à cette chose. C'est celui qui a demandé de faire, qui a plus le péché que l'autre. Parce que c'est lui qui est l'instigateur de cette idée satanique. De cette idée satanique. Maintenant, si un homme et une femme font un rapport, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, la femme ne sait pas qu'elle est dans les monstrues. Elle croyait qu'elle était pure. Ensuite, ils ont découvert le sang. Abdullah ibn Abbas dit dans le hadith authentique, naam, dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, que quelqu'un qui fait le rapport dans les monstrues, bien sûr qu'il ne savait pas. Donc tellement c'est grave. Regardez, il ne savait pas. Et si c'est pendant le début des monstrues, il doit donner au momon un dinar. C'est-à-dire l'équivalent de 5 grammes d'or. 5 grammes, 24 carats. Et si c'est à la fin des monstrues, il doit donner un demi dinar d'or. 2 grammes et demi. Certains ont dit pourquoi le prophète islam a fait la différence entre le début et la fin. Pourquoi le début et la fin? Certains ont dit, des savants, on dit parce qu'au début, le sang est beaucoup, coule beaucoup plus qu'à la fin. Donc celui-là, malgré tout le sang qu'il y a, il n'empêche qu'il a fait quoi? Qu'il a fait le rapport. Donc celui-là, sa punition doit être plus grande que celui qui a vu seulement un peu de sang chez sa femme et a été tenté. Il a dit, c'est pas grave, c'est juste un peu de sang. Celui-là, 2 grammes et demi d'or, il doit les donner comme punition, à part le péché qu'il a fait, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante. Question d'un frère ou d'une sœur, Allahu a'lam. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Question sur le cours. Au sujet du hadith avec les menstrues et la sodomie, Cheikh a dit qu'il est permis pendant la période des menstrues que la femme puisse assouvir l'homme avec sa main. J'ai cru entendre une fois qu'il n'est pas permis à l'homme d'éjaculer en dehors de la matrice de la femme. Pouvez-vous nous éclaircir, barakallahu fikum, Cheikh? Tafadda.
Il y avait des coupures, j'ai pas entendu. J'ai entendu, je sais que ça part de ce que fait l'homme avec sa main, mais j'ai pas compris à la fin, il y avait le mot matrice et quelque chose comme ça. Il y avait des coupes. Regardez s'il y a quelqu'un dans le salon qui s'appelle Ibn Ali. Ibn Ali 74. Si vous trouvez, vous allez trouver parce que dans le programme que je gère, je vois son nom. J'ai écrit son nom, mais pour le trouver dans la liste, c'est difficile. Si vous le trouvez, vous lui enlevez le raid, car j'ai besoin de lui. Répète la question, Marc Laufik.
Fauzi, quand tu parles, on n'entend rien.
Là, je pense que c'est bon là. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Je répète la question. Sur le cours, question sur le cours, c'est au sujet du hadith avec les menstrues et la sodomie. Cheikh a dit qu'il est permis pendant la période des menstrues que la femme puisse assouvir l'homme avec sa main. J'ai cru entendre une fois qu'il n'est pas permis à l'homme d'éjaculer en dehors de la matrice de la femme. Pouvez-vous nous éclaircir? Barakallahu fikoum. Tafadhal, Cheikh.
Vous aviez le micro, mais on ne vous entendait pas.
Bella, si tu m'entends, écris numéro 1. Alhamdoulilah. Bilal, quand j'ai bossé, anti-talafi. Est-ce que tu as vu qu'il y avait des lignes qui montaient et des choses qui sortaient comme ça? Tu as vu ça? Ça m'a pris 5 minutes ou là, des choses qui montent comme ça. Il faut signaler ça à Ben Barka. Il faut signaler ça que quand on bounce, on voudrait que ça. Comme dans les autres programmes, tu le bounces, il n'y a rien. La personne est exclue du salon, ça s'arrête là. Femme, ça commence pas à monter comme ça des dessins. Et d'où ça s'enlève facilement. N'oublie pas ça, barakallahu fik. Je dis à la personne qui, je crois, parlait, n'a pas bien formulé, je crois qu'elle parlait de la masturbation. Non. Elle a dit que d'après elle, d'après cette personne, c'est haram. Et ce qui est permis, c'est seulement, yani, que l'homme, yani, fasse le rapport avec la femme. Et que, yani, son nom. De son je dis oui, c'est vrai, la masturbation est interdite, c'est un péché, que ça soit de la part de la femme, que ça soit de la part de l'homme. Reste que les savants ont dit, même Cheikh Ibn Uthaymeen l'a dit, il a dit c'est interdit quand c'est quoi, quand c'est pour la personne elle-même. C'est pour ça qu'on appelle masturbation, c'est-à-dire que avec sa main qui va faire le haram avec elle-même, pas avec une autre personne, avec elle-même, et jusqu'à ce que elle trouve son plaisir. Ils ont dit ça c'est haram. Mais si un homme marié demande à sa femme, à sa main, à elle, qu'elle lui fasse cette chose, c'est pas interdit. Vous avez compris? Ce qui est interdit, c'est que l'homme ou la femme fasse la chose à elle-même. Voilà. Mais si c'est la femme qui fait à l'homme, à son mari, bien sûr, ce n'est pas interdit. Car la femme s'est mariée avec lui, elle lui appartient, il fait d'elle tout ce qui est halal. Et ça, c'est pas haram. Fadlan.
Barakallah fikoum cher. Donc la première chose pour la sœur qui veut savoir quand les cours sont mis sur le site, en général ça prend une dizaine de jours. Mais en ce moment, comme il y a des petites perturbations, je ne sais pas si ça prend le même temps ou pas. Et bien là, ça va être très rapide. Le deuxième point, concernant la personne qui a dit qu'il avait posé une question la semaine, enfin lors du dernier cours, et qu'il n'a pas entendu la réponse, car il n'a pas eu le temps de prendre des notes. Bidnillah, tu trouveras la réponse donc dans l'enregistrement, Inch'Allah, pour qu'on évite de reposer la question. Et enfin, chère, question d'une sœur qui dit, est-ce que l'hypnotise est du shirk, chère? Et de même, est-ce que l'hypnotise est de la sorcellerie? Barakallahu fikoum. Vous avez entendu quand je parlais, je ne sais pas si je parlais dans le vide ou... Donc vous avez bien entendu la question.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai quelques difficultés à prendre le micro. J'ai quelques difficultés à prendre le micro. Entre parenthèses, Ibn Ali, je t'ai écrit quelque chose en privé. Tu ne m'as pas répondu. Je t'ai écrit quelque chose en privé. Tu ne m'as pas répondu. Un L'hypnotisme, c'est vraiment yani, quelque chose d'étonnant. D'étonnant. Subhanallah. Et certains veulent que c'est une. Que Zama. Ah. Attends, je te réécris. Certains veulent dire que Zama, c'est une science. Rapport avec la médecine. Non, quand on apprend la médecine, ensuite il y a né la spécialité, on peut faire par exemple hypnotisme. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est pas. Il y a des. Voilà, je saurai, je reviens là.
Donc, cher, revient, Inch'Allah. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, cher, hier, n'a pas eu le temps de répondre aux questions. Donc, il y répond aujourd'hui. On a récupéré les questions hier après le cours. Et cher est en train d'y répondre. Et sinon, pour la procédure normale, lorsqu'il y a un cours en direct, à savoir le samedi et le mercredi, à partir de 20h15 environ maintenant, il est possible de poser des questions concernant le cours, ou bien concernant tout sujet, quel qu'il soit. Donc pour les personnes qui ont des questions en général, ils doivent lever la main dans le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie, celui dans lequel on est actuellement, et attendre leur tour, et en temps voulu, un admin vient récupérer la question en privé. Quand c'est une question qui concerne le cours, c'est dans le salon qui s'intitule J'apprends l'islam sur la vraie voie bis. Il faut de même lever la main et attendre qu'un admin vienne. Alhamdoulilah, Cheikh est revenu, donc sans plus attendre, je lui laisse le mic.
Naam, salam alaykoum, est-ce que vous m'entendez? J'ai dit que certains prétendent que l'hypnotisme, c'est une branche de médecine et que on apprend d'abord la médecine, on étudie la médecine, et ensuite on peut faire une spécialité dans l'hypnotisme. Mais moi j'ai beaucoup de doutes en cela. Pourquoi? Parce que si c'était une spécialité dans la médecine, pourquoi on est à la fac? Pourquoi il n'y a pas de livre? Il n'y a pas de livre, il y en a sur l'hypnotisme qui montre que voilà comment qu'on étudie, comme il y a pour le vétérinaire, comme il y a pour le médecin, comme il y a pour le cardiologue, et comme ça. Deuxièmement, l'hypnotiseur, pour moi, Allahu alam, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a des relations avec les djinns. Sinon, comment peut-il avoir accès à, subhanallah, ton aql, ta tête, ta cervelle, ton raisonnement, au point où c'est lui qui va te commander. Donc c'est grave. Quelqu'un, je le commande à distance, et je peux lui dire, par exemple, dénude-toi. Ou alors, viens faire zina, car je le commande. Je vais à la banque, je dis au caissier, donne-moi tout l'argent que tu as. Je lui dis ceci, cela. Donc, subhanallah l'adim, al-khamr, l'alcool, pourquoi elle a été interdite? Parce qu'elle te fait perdre le raisonnement. Tu te commandes plus. C'est elle qui commande, c'est l'alcool qui commande, le vin. Non, c'est les passions qui commandent. Tu ne peux plus faire salat. Imaginez maintenant une autre personne me commande. C'est elle qui me donne des ordres. Je pense, Allahu ta'ala alam, que c'est une sorte de sorcellerie, ou du moins que ça a un rapport avec les djinns. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal.
Baklof et comme cher, on m'a envoyé un prêt que certains savants disent que justement c'est un travail avec les djinns. Wallahu alam. Question suivante d'une sœur qui dit: Cher, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et que vous accordez à la da'wa. J'aimerais savoir si les habitants du paradis se rappelleront de cette vie d'ici-bas et s'ils se rappelleront de toute leur vie passée dans la dunya. Barakallahu fikoum, cher.
C'est tout ce que j'ai entendu de la question. J'ai entendu seulement la doua. Amin pour la doua. Et c'est quoi la question? De même que je dis à Ibn Ali, je lui dis que je t'ai envoyé deux messages, tu ne m'as pas répondu. Donc, il y a du louche. Il y a des djinns. Il y a des djinns qui sont dans le salon. Ils essayent de faire des problèmes entre toi et moi. Ils veulent nous séparer. Séparer l'enseignant de son élève. On n'est pas un couple. L'enseignant de son élève. Attention, ils veulent nous séparer. Donc, il faut voir c'est qui. Si c'est pas Tamallah qui fait ça. Il faut voir. Pour chercher celui qui nous fait ça. Tfadal, répète la question. Barakallahu fik.
Amchir, donc la question de la sœur était, et toujours d'ailleurs, j'aimerais savoir si les habitants du paradis se rappelleront de cette vie d'ici-bas et s'ils se rappelleront de toute leur vie passée dans la dunya. Barakallahu fik, Amchir. J'espère que ça a été plus clair cette fois.
Vous m'entendez, Inch'Allah? Vous m'entendez? Naam, ils vont se rappeler de cette vie d'ici-bas. Ils vont se rappeler des gens, de leur famille, de leur. C'est pour cela que je voudrais vous afficher un verset. Attendez-moi juste, parce que j'ai fermé le programme. Attendez juste que, et je viens de le rouvrir. Donnez-moi juste un instant pour vous afficher, Inch'Allah Ta'ala, un verset en ce sens. d'Allah Ta'ala en parlant des gens du paradis. Regardez, en parlant des gens du paradis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Qalu, ils sont en train de parler. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Nous vivions au milieu, dans la crainte d'Allah. Nous vivions au milieu des nôtres, dans la crainte d'Allah. Nous vivions au milieu de notre famille, dans la crainte d'Allah. Donc, ils sont en train de parler de comment qu'ils vivaient dans leur famille. Donc, toute personne qui, dans sa famille maintenant, vit dans la crainte d'Allah en ayant peur de lui, Inch'Allah Ta'ala, elle sera, fera partie des gens du paradis bi'idhnillah Ta'ala.
Vous avez fini, cher? Parce que je n'ai pas entendu si vous avez fini. Ça a coupé subitement.
Non, mais Zed, j'ai pas terminé, une seconde. Donc nous vivions au milieu des nôtres, nous vivions dans la famille, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et, alhamdoulilah, Allah Ta'ala yani, nous a préservés de l'enfer. Attendez, comment qu'il a dit nous a préservés, une seconde. Allah nous a favorisés, protégés du châtiment du summum, ce qu'il y a dans l'enfer. Ensuite vient le verset 28, qui est un peu plus haut, antérieurement. Antérieurement, quand on était dans la vie d'ici-bas, nous l'invoquions. C'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. Antérieurement, avant de venir ici au paradis, quand on était dans le bas monde, nous l'invoquions. Donc, il se rappelle que ils vivaient dans la crainte dans leur famille et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala quand ils étaient dans la dunya. Donc, c'est là que Allah Ta'ala, il les a favorisés et protégés du châtiment du summum. Naam. Walhamdulillah. Toute personne qui vivait dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, naam, et l'invoquait, c'était lui le charitable, le très miséricordieux, sa récompense, Inch'Allah Ta'ala, elle sera favorisée et protégée du châtiment de l'enfer. Naam. Tfadl maintenant.
Barakallah fikoum, cher. On m'a transmis une fatwa sur l'hypnotisme de Dal Ifta. Et parmi les points évoqués, est que l'hypnotisme est un genre de sorcellerie que fait l'hypnotiseur en utilisant le djinn afin de dominer l'hypnotisé. Donc voilà ce que dit Dal Ifta, cher. Question suivante. Cher, est-ce que l'illusionniste, donc notamment qui fait de la magie pour les enfants, est-ce que fait-il partie des sorciers? Barakallahu fikoum, cher.
L'illusionniste, en fait, naam, fait partie des sorciers en ce sens que les gens ne savent pas que ce n'est pas un sorcier, mais croit que c'est un sorcier. Donc lui, il s'est fait ressembler au sorcier. Sinon, c'est quelqu'un qui fait seulement des choses avec sa main comme ça, rapide. Des choses rapides comme ça avec sa main, pour y aller, que les gens croient que il s'est passé telle ou telle chose. En fait, il n'a rien fait. Il est tellement rapide qu'il a caché la chose et tu ne l'as pas vu, et qu'il a passé de la main droite à la main gauche, et comme ça, et tu ne l'as pas vu. Si vous parlez de celui-là, c'est pas un vrai sorcier au sens propre du terme. Mais il doit éviter ces choses. Pourquoi? Pour que yani, les gens ne soient pas dupés et ne soient pas yani, ils leur fassent pas des choubouhettes. Car pour eux, c'est un sorcier. Naam. Fadl. Ibn Ali, je t'ai répondu, mais apparemment tu n'as rien reçu. Réécris-moi encore une fois, tfadal.
Barakallahu fikoum, cher. S'il vous envoie un pigeon voyageur, je pense que ça ira plus rapide que. Donc, la question suivante d'un frère qui dit: c'est au sujet du hadith avec les monstrues. Non, ça, celle-là, c'est Ikhlas. J'aimerais savoir si les djinns attaquent et s'ils attaquent qui en particulier. Barakallahu fikoum, cher.
Je disais, il y a une histoire. Une histoire, je sais pas. Cheikh Albani rahimahullah a dit cette histoire est authentique. Cette histoire est authentique. Est-ce que vous m'entendez? Une fois, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a rencontré. Il lui a dit, écoute, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Ça fait à peu près 2 ans qu'on te cherche. 2 ans ou 3 ans. Il lui a dit, d'accord, je vais te raconter, Inch'Allah Ta'ala. Il lui a dit, une fois, alors que je sortais de la maison pour aller à la mosquée, des djinns m'ont agressé dans la rue. Pire encore, m'ont kidnappé. Et m'ont pris chez eux, dans leur demeure. Et je suis resté chez eux, enchaîné. Je ne sais pas combien de temps, je crois tout ce temps-là, une année ou plus. Jusqu'à ce qu'une fois, d'autres djinns, l'âme, sont venus les combattre. Car il y a même des guerres entre les djinns, comme chez nous, des guerres entre des peuples. Et en tuant les djinns des autres, bien sûr, et qui se sont sauvés, etc. Alors moi, j'ai été libéré, ou alors je me suis sauvé. Et maintenant, je suis là, devant toi. Est-ce que vous avez entendu, Allah, vous avez entendu l'histoire? Et cette chose, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit, ce hadith est authentique, subhanallah al-azim. Donc, c'est pas étonnant donc que nous, de temps en temps, qu'on dise, yani, où est cette personne, il y a des gens qui ont disparu, on les a pas vus une année, 2 années, on fait des annonces dans les journaux, il n'y a rien. Subhanallah al-Adim. Je connais une sœur. Quand je dis je la connais, ça veut dire elle m'écrivait. Elle m'écrivait quand je faisais des cours au Koweït. Non, ou alors elle m'a parlé au téléphone. J'ai oublié. Elle m'a dit que yani, beaucoup de fois les djinns me prennent chez eux. Et des fois je reste 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois chez eux. Elle m'a dit tout dernièrement, j'étais à Paris, elle habite Paris. Elle a dit j'ai été en train de marcher, je marche, quand soudainement je tombe. Yani, je me vois en train de tomber, ensuite je ne sais plus ce qui se passe. Quand je me réveille, je me trouve dans un autre monde avec les djinns. Et ils viennent me voir, ils viennent me parler, ils me montrent leur bâtiment, je vois, ils me font visiter le truc. Elle m'a dit, ils ont des ordinateurs. Elle m'a dit, d'après la sœur, elle dit que ils nous dépassent vraiment dans la technologie. Ils ont des ordinateurs vraiment grands, comme ça, comme des maisons. Des maisons, tout ça, c'est un ordinateur. Non. Elle m'a dit plusieurs fois, c'est pas une seule fois, ils m'ont emmené là-bas et je reste 2-3 mois et personne ne me trouve bien sûr, jusqu'à ce que je me trouve par exemple dans un jardin, à Paris ou dans une autre ville. Je me réveille, ça veut dire ils m'ont relâché. Que Allah Ta'ala nous préserve. Hein? Que Allah Ta'ala nous préserve. Maintenant si on va ajouter cette histoire au hadith authentique de Omar ibn Khattab et Cheikh Al-Albani a dit c'est authentique, qu'ils ont pris une personne, l'ont enchaîné, ils l'ont laissé chez elle, chez eux, une année, deux ou trois, j'ai oublié, mais plus d'une année. Ensuite, alhamdoulilah, que Allah Ta'ala a envoyé d'autres djinns pour le libérer. C'est que vraiment la personne doit yani, se protéger et faire des doigts jour et nuit. Bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sur ce, on va s'arrêter, inshallah ta'ala. Il est minuit moins 10 minutes. Inshallah ta'ala, on va s'arrêter. Naam. On va se donner rendez-vous pour mercredi. Bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Les admins, avez-vous une dernière chose à dire?
Cheikh Muslim, donc il y a une sœur qui a contacté Muslim et qui demande si vous êtes renseigné pour un wali dans le 59, dans la région du 59.
Non, le wali c'est facile. Naam. Mais j'ai autre chose à dire à cette sœur. Après je lui dirai par mail. Naam. Ou alors je lui dis dès maintenant, c'est mieux. Je lui dis dès maintenant, c'est mieux. Naam, l'essentiel, inshallah ta'ala, pour cette personne, si elle est en train de m'entendre, naam, c'est de faire, inshallah ta'ala, des efforts pour, yani, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala, yani, faire dire, yani, s'éloigner, yani, de, de cette épreuve, inshallah ta'ala, qui a touché cette personne. Naam. Ensuite, inshallah ta'ala, pour le mariage et le wali, ce sera, inshallah ta'ala, la chose la plus facile. Car vous savez que, surtout si une personne, par exemple, est atteinte de sihr et de djinn, et, bon, mauvais œil plus ou moins, mais djinn ou sihr, naam, yani, ce n'est pas facile pour le mariage, vous savez. Car, yani, toute personne, yani, ne souhaiterait que l'autre, c'est-à-dire le conjoint, ne soit pas chose, parce que ce sont des choses qui ne partent pas facilement. Je vais me marier avec une sœur, par exemple, ensuite tout le temps, elle est quoi? Tout le temps, elle est par exemple, comment on dit le mot avec Mosroa, elle est, comment on dit Mosroa? Évanouie par exemple, naam, tout le temps en train de trembler, voilà, tout le temps en train de dire j'ai mal. De ce côté, j'ai mal. Non, c'est pas facile. Des fois, même l'homme, quand il veut son haq, elle dit moi, je suis pas intéressé, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. C'est pour cela que toute personne, inshallah ta'ala, qui est éprouvée, non, par yani, une maladie occulte, comme on dit, devrait, inshallah ta'ala, faire des efforts, yani, persévérer dans, inshallah ta'ala, les soins. Naam, comme ça, yani, les ruqya, les adhkar, les inshallah ta'ala. Ensuite, bi-idnillah ta'ala, pour le tuteur, je m'emporte garant, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala, quand le résultat, yani, je dis pas est bon à 100%, mais que les choses se sont améliorées, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibn, j'allais dire Ibn Arabi, Ibn Ali, je vais essayer de t'écrire une dernière fois et je vais voir Inch'Allah Ta'ala.
Ma foi, j'ai pris le mic avant que vous coupiez, juste pour remercier toutes les personnes qui sont restées avec nous jusqu'à cette heure tardive. Et surtout, cher, vous remercier vous pour nous avoir accordé tout ce temps. Et désolé à toutes les personnes qui nous ont envoyé les questions et auxquelles nous n'avons pas pu donc répondre, et cher n'a pas pu répondre. Et je tiens juste à remarquer que Cheikh nous a accordé 2 heures, ce qui est déjà énorme, surtout qu'il venait de rentrer. Jazakallah khaira. Et vous pourrez venir la reposer peut-être vos questions lors du prochain cours qui aura lieu mercredi à partir de 20h15 environ, Inch'Allah. Et donc pour je voulais juste vous dire barakallah fikoum pour votre compréhension. Donc Cheikh a vraiment traité un grand nombre de questions. Alhamdoulilah. Donc, Ibn Ali, tu peux contacter Cheikh. Et donc, Cheikh a pris son PV, mais Barakallahu fikoum de rien envoyer. C'est uniquement pour Ibn Ali. Et Jazakallahu khairan jami'an. Barakallahu fikoum.